Des flashs et des crânes.
Des quoi?
Des flashs et des crânes.
Attends, Pedro, il va te montrer comment on fait.
Des flashs et des crânes!
Merci beaucoup.
C'est ouf, les gens.
En fait, je sais pas quoi vous dire.
You'll never feel happy!
3 minutes avant le plus grand combat de nos vies professionnelles.
Never feel happy!
Maintenant, c'est clair, on va faire le fuck! C'est clair, ça?
No, you won't. Until you try.
You'll never feel happy!
Oh là, oh ça y est, c'est parti! Avec une belle partie de Chipiron, il y a des marrons. Voilà, un vrai derby à l'ancienne. Et là, ça envoie sec. Hein.
Parce que la vie, ça se résume à ça. Les 15 cm qui sont devant au visage.
Là, c'est beaucoup trop. Faut arrêter dans tous les sens.
Bonjour chers auditeurs et bienvenue dans cette nouvelle édition des Flashs et des Crânes, une édition cette fois-ci dédiée à l'organisation de tournois avec des invités on ne peut plus prestigieux. Je vais commencer par celui qui n'est encore jamais venu à cette table, il s'agit de Bud Milka. Bud Milka, bonjour.
Bonjour, bonsoir.
Donc Bud Milka, ouais. Je te resitue, tu es un nouveau membre de notre communauté, enfin nouveau, ça fait un an et demi, deux ans que tu es là. Et ta présence à cette table se justifie par le fait que avant... Blood Bowl, tu as eu une autre vie en tant qu'organisateur de tournois de jeux de cartes. Voilà, on va pouvoir faire un petit parallèle entre la façon dont ça se passe dans vos communautés et dans la nôtre.
En fait, je vais te corriger, mais Blood Bowl n'a pas d'autre vie, il ne fait que jouer à tous les jeux, tous, sans exception.
Des fois, je mange.
Il n'y a pas un seul jeu auquel il n'a pas joué.
Et donc, en face de toi, notre président vénéré.
Bonjour à tous.
Comment vas-tu, Pedro ?
Bah, ma foi, ça va très bien. Je pense que comme tout le monde autour de cette table, je suis un petit peu excité à l'idée de cette World Cup arrivant.
Tout aussi excité et doté d'un magnifique chapeau colombien. Qu'est-ce que tu fais? T'as fait des afters avec une flûte de pan à la station
Simon MLF qui est parti au Pérou et qui me l'a ramené.
Oh, mais c'est mignon. Hein. Faites un beau couple tous les deux. Comment vas-tu, mon bon Bucks?
Ça va bien.
Parce que c'est de toi qu'il s'agit.
Moi aussi, tout excité là pour cette World Cup. Et puis je suis content d'être là, ça fait longtemps.
Il y a quand même un t-shirt avec un canard dessus, François. C'est incroyable.
Ouais, c'est con parce que vous verrez ni c'est mon bonnet, ni mon canard, ni mon t-shirt.
Et pour finir, nous avons bien sûr SSB, dit le maître de la forge.
Le maître des lieux, en tout cas.
Et le maître des lieux.
Dit Skeletor.
Dit celui qui a arrangé ce magnifique local d'où nous pouvons émettre à nouveau suite à la perte de notre ancien local et nous le remercions. Comment vas-tu, SSB?
Très bien.
Très bien, c'est concis. Mais c'est, en fait...
c'est le plus important.
C'est un bon client.
C'est genre bien. Une réponse à la Bruce Willis dans le cinquième élément.
Ça va.
Alors, comme à chaque, nous allons commencer par notre dossier sur les organisations de tournois. Puis viendra la chronique internationale. Cette émission, vous aurez droit à une entrevue avec Omakech. Donc un des membres de l'équipe d'Espagne de Blood Bowl qui nous parlera un peu de sa communauté, de la façon dont ça se passe outre-Pyrénées. Et pour finir, la rubrique pilotée par Bucks qui nous fera un petit tour d'horizon des tournois à venir. N'est-ce pas, Bucks?
Bah, moi, j'ai rien branlé. C'est Pedro qui a tout fait cette fois-ci.
D'accord, ce sera donc piloté par Pedro.
Ouais.
Mais ce sera Bucks qui va lire.
Ouais, je vais lire les notes de Pierre.
Peut-être qu'on fera un petit dialogue pour pimenter un peu la chose. Qu'on commence les petites et grosses galères de l'organisation de tournois, si je comprends bien.
Exactement.
Je vais
commencer par te demander ton avis, puisque tu fais partie des organisateurs principaux du Lutèce Bowl, qui est à ce jour, je crois, le plus gros tournoi organisé, en tout cas en France. Est-ce que tu peux nous dire déjà, en termes de chiffres, Lutèce Bowl, qu'est-ce que ça va représenter comme budget? Combien de joueurs il faut pour que ce soit, on va dire, rentable? Et quels sont les points d'organisation vraiment importants quand on prépare un événement de cette taille?
Mais t'es ouf, il sait pas tout ça, il en a rien à branler.
Alors, faut savoir, je tiens à tous à vous prévenir que je n'ai absolument rien préparé non plus par rapport à cette émission, donc ce sera peut-être...
On est au top.
Ce sera peut-être un petit peu fouillis, mais il y a quand même pas mal de choses, pas mal de choses à dire et pas mal de choses intéressantes. Donc effectivement, le Lutèce Bowl qui ces dernières années est devenu un tournoi assez important en termes de nombre de participants.
Qui reviendra en 2016.
Il a fallu qu'on anticipe aussi en en étant pas mal d'organisateurs. Hein. Je ne sais pas si c'est le plus grand tournoi qui a été organisé en France, parce qu'il y a eu l'European et l'European Bowl en 2010 à Bayonne, où il y avait aussi pas mal de joueurs. Ça avait dépassé les 100, je pense. Au moins, même peut-être beaucoup plus, je connais pas trop les chiffres. Enfin, toujours est-il que l'affluence la plus importante au Lutèce Bowl, ça a été il y a 2 ans maintenant. On était à peu près 180 joueurs et une vingtaine d'organisateurs, donc on est monté à 200 personnes sur le site, c'était très sympa. Et l'an suivant, donc en 2014, on était 150 et quelques joueurs, 155, c'était un peu bizarre parce que comme c'est par équipe de 5, il en manquait quelques-uns, mais c'est pas grave. Et toujours pareil, une quinzaine, une vingtaine d'organisateurs. Je vais revenir sur tes questions. Pour avoir des chiffres précis, j'invite tout le monde à consulter les posts qui ont été édités sur le forum de l'équipe de France après les tournois, et notamment celui de 2013 et de 2014, et peut-être ceux d'avant aussi, où on a essayé de compiler toutes les informations budgétaires et financières qui nous semblaient pertinentes en fait.
Dans un effort de transparence vis-à-vis de la communauté.
Oui, bah parce que je pense que c'est important que les gens ils savent ce qu'on fait avec leurs sous en fait, tout simplement. Et ça peut aider aussi quelque part d'autres personnes à se rendre compte de ce que c'est que l'organisation et de mettre la main à la pâte et aussi par eux-mêmes d'organiser des jolis et des beaux tournois. Je crois que l'ordre d'idée général, je pense que c'est à peu près entre 10 et 15 000 euros de chiffre d'affaires entre guillemets pour un gros Lutèce Bowl.
D'accord.
Pour Lutèce Bowl à 160 personnes à peu près, il faut compter, voilà, c'est entre 10 et 15 000 euros, donc tout compris. Ça fait pas mal d'argent, et effectivement, ça peut être un risque pour la structure. Là, on est une association, et donc effectivement, s'il n'y a pas assez de monde qui vient, avec les coûts qui sont inhérents au local, tout ça, ça peut être vraiment risqué d'organiser un gros tournoi, donc c'est pour ça qu'il faut bien se préparer en amont et pas se lancer un peu à l'aveuglette, je dirais.
D'accord. Alors, je vous propose d'écouter l'interview d'un autre organisateur de tournoi, il s'agit de Nathanaël, organisateur du NDC, qui a cette particularité, c'est d'être un tournoi qui marche un petit peu tout seul, puisqu'il a un nombre fixe de joueurs de 38 joueurs et il refuse du monde un petit peu tous les jours.
Tous les ans.
Néanmoins, il y a quelques points d'organisation sur lesquels il a dû un petit peu batailler, et notamment qu'il fallait relancer la machine après plusieurs années d'interruption du NDC. On l'écoute.
C'est un tournoi qui est bien rodé maintenant parce que ça fait 6 ans que j'organise, donc ce sont toujours les mêmes fournisseurs. Je pense notamment à la nourriture. Je passe toujours par le même traiteur, donc ça, c'est des questions que j'ai plus à me poser maintenant avec l'orga. En termes de goodies, c'est à peu près le même fournisseur, il y a des petits changements, mais en gros, c'est le même fournisseur. Donc en termes d'orga, avant le tournoi, il n'y a pas de difficulté majeure. Et pareil, en termes de quantité, vu que c'est un tournoi qui est d'une taille limitée, j'ai pas de soucis à me demander est-ce qu'il faut que je commande pour 40, pour 60, etc. Je sais exactement combien il faut que je commande. Et ça, mine de rien, c'est un gros, gros point fort. Je pense que beaucoup d'orga qui n'ont pas cette chance sont embêtés au moment de commander les goodies, commander les repas. C'est assez gênant pour eux de se dire « je commande pour combien ?» Moi, j'ai la chance de savoir à l'avance combien de joueurs je vais avoir. Au tout début, pour faire connaître le tournoi, enfin pour faire connaître la reprise, vu qu'il y avait déjà une bonne renommée avec l'équipe précédente, pour la reprise, par moi, au début, c'était le fait d'en parler sur les autres forums d'autres associations. Donc j'allais m'inscrire sur ces forums, présenter le tournoi. Et puis il y avait aussi le fait de rencontrer les joueurs en direct lors des tournois et leur dire voilà, tel tournoi, telle date, avec un flyer ou des choses comme ça. Donc ça c'était au début, et maintenant, en général, une annonce sur France Football et une annonce sur le forum du NDC, ça suffit pour avoir assez de joueurs.
Et, bon, le fait est que enfin, le tournoi 38 joueurs, et puis je trouve que l'endroit que Nathanaël a trouvé est très... Enfin, il y a des chambres, des douches... l'endroit est super cosy, c'est vraiment super sympathique. Des conditions de tournoi comme ça, on n'en a pas tous les jours, donc 38 joueurs à remplir, c'est juste un jeu d'enfant, hein, je pense. C'est vraiment, les gens doivent plutôt se battre pour y aller, en fait. Donc,
à la renommée du tournoi et le fait qu'il ait trouvé tous ces beaux, on va dire, contextes pour son tournoi. Tout ce beau contexte pour son tournoi fait que les gens, en fait, ils sont allés, et puis finalement, ils veulent y retourner tous. Et il y a plus de demandes que d'offres. Donc du coup, effectivement, il y a
de
pas
fait,
trop...
je pense que le lieu est super important là-dedans. Après, il y a les petits trucs autour de l'UADC qui sont très intéressants, mais le lieu est vraiment... Je crois que c'est ce dont les gens parlent tout le temps, en fait.
Et puis, il y a aussi le fait que, voilà, quand on va au NDC, c'est, on va au tournoi de Nathanael, avec le tournoi, de, avec la compétition de rétro gaming qui est organisée. Il y a cet esprit-là. D'ailleurs, ça me permet de rebondir. J'ai parfois l'impression que pour qu'un tournoi parvienne à attirer ses joueurs, pour qu'il parvienne à attirer suffisamment de joueurs et donc à exister... Il faut qu'il ait une particularité, une aspérité, ou au minimum qu'il soit animé par des gens qui sont déjà bien connus dans la communauté. Est-ce que vous pensez que c'est possible pour quelqu'un qui n'est pas forcément très connu au sein des joueurs d'organiser un tournoi ayant un peu de renommée?
Bah, de toute façon,
la palissade.
Quelqu'un qui est pas très connu sur le milieu du Blood Bowl et qui va commencer à organiser un tournoi, il y aura forcément fatalement pas trop de monde au début.
J'ai un contre-exemple, hein. La Coupe du Monde, vous connaissez les organisateurs personnellement? Vous les connaissez pas, mais pourtant c'est juste parce que c'est la Coupe du Monde, hein. Mais les organisateurs sont pas importants là-dedans, c'est le c'est
ouais, mais
il y a combien de joueurs là? 1000.
un peu moins. Non, mais pour quelqu'un qui arrive et qui veut organiser un tournoi, je pense qu'il faut qu'il prenne son temps et qu'il installe une image de son tournoi. Et si le tournoi est bien fagoté et bien organisé, que le lieu est sympa et que le contexte est bon, c'est sûr que les gens vont accrocher petit à petit, quoi. Donc du jour au lendemain, venir comme ça et faire 50 joueurs ou 70 joueurs, à mon avis, c'est un petit peu compliqué, quoi.
Sans vouloir nuire à ton image, Pierre, je sais pas si c'est le fait que ce soit toi qui organise par exemple le Lutèce Bowl qui fait que les gens viennent au Lutèce Bowl. Je pense que c'est le fait que ce soit le Lutèce Bowl. C'est pas un fait d'organisateur.
Non, mais je suis plus très connu dans le milieu.
Il y a plusieurs choses.
C'est pas à cause de moi ou grâce à moi.
Mais t'es très connu quand même. Enfin, tu t'en rends peut-être pas compte, mais les gens te connaissent.
Non, mais comme disait Damien tout à l'heure, il y a aussi le fait de savoir que les copains viennent qui fait que tu y vas, quoi. Ouais. Mais je pense que dans le cas du Normandy Dragons Cup, là, le NDC, il y a aussi l'organisateur qui est très important. On sait que c'est Nat et c'est parce que c'est Nat qu'on y va aussi, tu vois.
Oh, je sais pas, moi j'en ai rien à foutre.
je me tourne un peu vers Bad Mika. Donc toi qui organise encore d'ailleurs des tournois. D'ailleurs il y en avait un, tu en organises un pas plus tard que ce week-end.
Week-end dernier. Oui.
Est-ce que il y a ce phénomène justement communautaire de est-ce que c'est un truc qui est propre à Blue Bowl ou c'est quelque chose que t'as pu observer dans.
Non, en fait quand t'as un tournoi qui est par exemple là on avait fait le tournoi de la main qui est un tournoi européen qui est un tremplin pour le championnat d'Europe.
Tu peux juste nous rappeler le jeu en question, parce qu'on l'a dit tout à l'heure,
Le jeu, c'est Trône de Fer, le jeu de cartes. Mm-hmm. Donc, qui va passer à une V2, très prochainement, qui a déjà commencé. Et là, on est sur la fin de vie, donc, une première version du jeu de cartes dont on joue encore actuellement. Et donc, il y avait un tournoi, ce week-end, à Paris, à la Taverne. qui est en fait un tournoi qualificatif, mais qui est un tournoi qui permet d'accéder au championnat d'Europe qui se déroule à Stalek dans 3 semaines en Allemagne. Et ce tournoi, il y en a un par an. Il y en a un par an donc en France. Et on se le répartit. Des fois il est à Paris, des fois il était l'année dernière à Bordeaux par exemple. Et donc là cette année, comme il était chez nous, mais il avait une certaine réputation. Et je ne vais pas dire quels que soient les orgas. Comme tu disais, comme c'est estampillé World Cup là, pour le tournoi. Bah, les gens viennent quand même, quels que soient les organes. Nous, on a un peu cet effet-là pour ce type de tournoi. Après, quand on a aussi des communautés assez grandissantes, assez importantes, comme à Nantes, par exemple.
Mais ce qu'il y a, c'est que le Trône de Fer, dis-moi si je me trompe, mais...
On n'atteint pas des influences comme à Blood Bowl.
Le jeu organisé Trône de Fer fait qu'il y a une certaine forme de rémunération, entre guillemets, contrairement à Blood Bowl, dans le sens où...
Dans le sens où, par exemple,
la personne qui va gagner le championnat de France, qui est le plus grand tournoi organisé en France, il va gagner un ticket, ou les deux premiers, j'en sais rien, va gagner un ticket pour aller
au championnat du monde. À Minneapolis, en novembre.
Donc
billet d'avion et le.
Ah d'accord, oui, ça vaut le coup.
Et du coup, il y a le championnat de France et il y a tous les tournois qui sont qualificatifs pour le championnat de France ou qui peuvent donner un avantage pour le championnat de France, ce qui fait que, en fait, contrairement à à la communauté de Blood Bowl, les tournois vont avoir une différence plus ou moins importante selon leurs caractéristiques. Il y a les tournois qualificatifs qui vont donner un avantage au championnat de France, qui lui-même va c'est donner ça. Un ticket. Donc après,
l'avantage
d'avoir un éditeur derrière soi aussi peut-être.
Oui, ça aide pour avoir des goodies on va dire originaux, pour avoir des tapis de jeux.
Vous voulez dire que Games Workshop nous aurait abandonné?
Non, je ne y crois.
Oh mon Dieu!
Le seul côté qu'on peut retrouver pour faire le parallèle, c'est que notamment les tournois parisiens, la personne qui gagne un tournoi parisien, son ticket est offert pour le tournoi parisien suivant. Mm-hmm. Et du coup, c'est le Paname trophée. En fait,
dans le principe, on a des tournois boutiques, c'est-à-dire c'est une boutique qui commande un kit de store, ce qu'ils appellent, et le vainqueur gagne un bonus, donc un bail pour le régional, 5 régionaux par an. Donc un par indicateur téléphonique, gros. Et le vainqueur d'un régional gagne un bail pour le championnat de France. Donc ça marche comme ça.
Une entrée, c'est ça ?
Un bail, non, c'est un. C'est la première ronde, tu ne la joues pas. Tu es considéré comme gagnant.
Ah d'accord.
On joue 5
rondes. T'as un avantage dans le tournoi, quoi.
Oui. Bah c'est comme les bails au tennis, à la TP.
Je connaissais pas ce principe en fait.
Ok. Non, c'est.
Non. Après... puis le fait que dans les tournois de Blood Bowl, il y a quand même un nombre relativement très limité de matchs, de rondes. Enfin là, c'est 5 rondes. Enfin c'est 5 rondes dans un tournoi de Blood Bowl. En général, alors que c'est 8 ou 9 pour.
Ouais, avec les phases finales, ouais, c'est ça.
Oui, d'accord.
Du coup, le dimanche, c'est un autre tournoi. Souvent, comme un trône de fer, on fait l'ajout, donc du 1 contre 1 le samedi. Et le dimanche, c'est la mêlée, c'est un multijoueur. C'est, on est 4, chacun pour sa gueule. Et...
D'accord.
Voilà, donc ça fait. C'est deux tournois en deux jours.
D'accord, oui, mais effectivement, il y a plein de matchs à jouer, donc c'est pas tout à fait le même contexte. Nous,
c'est
donc
d'un match. C'est pas un avantage.
Pourquoi j'ai payé? C'est sûr que c'est pas rentable.
Pour boire le café avec les orgas.
Ou sinon, en fait, le bail, ça pourrait te dire, vous prenez le plus noob de tous et c'est mon premier
tu
match.
Peux,
quoi.
Ou tu peux choisir ton adversaire.
Ouais,
une histoire de tête de soirée, une histoire de tête de série, par exemple. Oui,
à savoir qu'il y a déjà des tournois de Blood Bowl en France qui permettent de choisir ou en fait, de défier un adversaire.
Condition que l'autre a accès à toi.
Bien sûr.
Oui, mais tu dois pas avoir gagné le tournoi précédent pour pouvoir défier. Mais ça serait intéressant de dire à chaque tournoi, tu peux défier ton adversaire si t'as gagné le tournoi. Tu peux défier un adversaire à la première ronde.
Ou une prime de match. Une prime de match pour le premier tournoi.
Non, premier match.
Ouais, je trouve ça, un peu ridicule.
Tu branches directement le gars que tu penses jouer en dernière ronde.
Ce qui est bien.
Tu branches tout de suite et comme ça t'es sûr de le jouer.
Ce que je trouve intéressant, c'est que finalement quand on fait un parallèle entre deux jeux, ça donne plein d'idées pour détourner des petits trucs et les
beaucoup
les
de mauvaises. Dans... Ceci dit.
Ouais, mais bon, c'est réfléchir tout ça, mais
ouais,
et les mettre pour le Blood Bowl.
D'accord. Alors revenons un petit peu sur l'organisation des tournois de Blood Bowl. Alors ce qui est ressorti des deux petites interviews que j'ai pu faire, c'est l'importance de, alors peut-être moins dans le cas de Nathanael que dans le cas de Karoag, qui est donc l'organisateur du Bowl des Katim.
Karoag, son prénom.
Alors on va remettre les choses dans leur contexte. C'est Omak, Nathanael et Karoag.
Merci Books. Donc Karoag, organisateur donc du Bowl des Katim. C'est au final de savoir au maximum en avance les gens qui vont venir et si possible de les faire raquer en avance. Pour est-ce que c'est un avis que tu partages?
Bah, c'est sûr que pour un organisateur c'est toujours bien d'avoir une vision sur l'importance de son tournoi et d'avoir les soins en avance parce que ça lui permet déjà à lui personnellement de pas avancer les frais pour les différents trucs qu'il commande et tout.
Mais c'est même pas ça, c'est que en fait moi je vais aller plus loin que ça, c'est quelqu'un qui a pas payé, c'est quelqu'un qui peut se permettre de pas venir en fait. Quelqu'un qui a payé, il vient. Et ça, en fait, c'est vital pour le tournoi que les gens payent avant. J'ai même pas une question de raquer, parce que je suis désolé, mais les genre de terme un peu avec les mains crispées.
C'était un peu fait exprès.
Mais dans le principe, un joueur, il faut qu'il ait payé. Il faut qu'il ait payé avant. Il y a des tournois qui se cassent la gueule parce qu'ils faisaient. Enfin, moi, les gens qui commencent à organiser des tournois, qui viennent te parler et te parlent de ce genre de choses, en général, quand ils se vautrent, c'est qu'ils ont dit oh, les gens paieront quand ils arriveront. Et en général, bah, t'as 30% ou 40% de désistement. Parce qu'au dernier moment, les gens ont un autre truc à faire. Puis comme ils n'ont pas payé, ils en ont rien à foutre. C'est bassement matériel.
Oui,
hein,
non, mais après, malheureusement, c'est compliqué pour un tournoi, sauf dans le cadre de Nathanael, par exemple, d'obliger les gens à payer en avance.
D'accord.
Il faut. Enfin, parce que Nathanael, lui, comme son avantage, entre guillemets, parce qu'il fait un très très beau tournoi et tout lui est dû, en fait, c'est lui qui mérite le plus, mais son avantage, c'est que comme il y a plus de demandes que d'offres, du coup, bah, les gens vont se presser encore plus pour payer en avance. Et du coup, il peut maîtriser son budget de façon la plus libre qui soit. D'accord. Maintenant, un tournoi lambda qui a une capacité et non la demande inférieure à la capacité, du coup, les gens vont avoir moins tendance à payer avant le tournoi.
D'accord. C'est pour ça. Je vous propose sur ce point précis, d'ailleurs, d'écouter le bon Kaorag, qui va n'est pas parent. C'est quelque chose qui lui tenait pas mal à cœur quand je l'ai eu au téléphone.
Donc, comme on a un tournoi qui tombe juste après Noël, on s'est dit on va être gentil, on va laisser payer les gens le plus tard possible, voire même sur place. Et donc, on avait une trentaine de participants prévus, on était très contents. Et à 3 jours, donc après avoir fait les courses et tout ça, à 3 jours du tournoi, on avait déjà nos 3 premières annulations le mercredi. Puis le lendemain, on en apprend 2 autres pour une gastro, puis je sais plus quoi. Et donc, comme il y en a un qui vient pas, celui qui venait avec lui ne vient pas. Et le troisième, comme ça. Et le pire du pire, ça a été, pour pas le nommer,
Inigo Montoya,
qui le vendredi soir décide de pas venir et de emmener notre cher ami Arti. Des annulations de dernier moment, c'est aussi de l'argent qui part pour nous. C'est 200 euros en moins, et donc du coup, c'est 200 euros de notre poche.
Bon, ça tombe bien parce que justement, j'allais rajouter en général, la communauté de Blood Bowl en France est plutôt très amicale et
fortunée.
Et qu'on ne voit pas trop ce genre de cas, mais a priori, c'est arrivé, c'est déjà arrivé. Malheureusement pour le tournoi de Katim. Oui, c'est vrai que c'est problématique.
Moi, quand j'ai commencé les tournois il y a 100 ans, il y a 10 ans. On payait tous sur place et c'était assez régulier qu'il y avait 2-3 personnes effectivement qui venaient pas, et c'est venu au fur et à mesure que les gens demandent de payer avant, et effectivement je pense que c'est une bonne solution.
C'est vrai que si t'as une organisation où t'as la bouffe à préparer, enfin le local, faut c'est une avance budgétaire que obligé de.
Ce qu'on voit de plus en plus finalement, c'est que les orgas au niveau de la communication, ils relancent sans arrêt les joueurs pour avoir les paiements finalement. Et je trouve ça tout à fait normal.
Puisqu'on parle d'ailleurs de communication, alors on a le Team France Blood Bowl qui est un fantastique outil. Je crois que 100% de ceux qui vont au tournoi se baladent sur Team France Blood Bowl. Mais est-ce qu'il y a d'autres canaux de communication? Enfin, en tant qu'organisateur, il faut réussir à identifier les principales ligues en France, à les poster chez eux, relancer régulièrement. Est-ce que l'un de vous peut m'en parler un petit peu?
Oui, moi je pense que Stéphane et moi on peut en parler. Moi j'aurais tendance à dire que la communication, en tout cas pour l'UTS Bowl et d'un point de vue tout à fait personnel pour ce tournoi-là, c'est peut-être dans ce point-là que moi je passe le plus de temps, et Stéphane aussi. Parce qu'effectivement, nous, on a répertorié pas mal de sites de forums français de Blood Bowl de toutes les petites communautés, en fait. Celle de l'Impact, de Nantes, de Rennes, de d'Amiens, les mecs de l'Oise. Enfin, j'ai pas tous les cités parce qu'il y en a plus de 20, en tout cas. Mm-hmm. Et je fais une recherche, une fois tous les 6 mois, j'essaie de retrouver d'autres forums parce qu'il y a toujours des gars qui se réveillent. Et nous, on a décidé de communiquer sur chacun de ces forums-là. Donc, on a inscrit un compte associatif Lutes Cup sur chacun de ces sites et on a communiqué directement. Maintenant, c'est vrai que ça prend beaucoup, 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 beaucoup de temps.
En fait, il y a plusieurs.
Tu vas sur TFF, vas sur les forums étrangers.
Oui, mais alors TFF, sur Talk Fantasy, Blood Bowl, on a un post dessus. Ouais. On a même essayé d'aller sur le forum des Italiens, mais je sais pas si c'est leur forum.
Justement,
je
trouve qu'il y a plusieurs approches dans la communication. Soit il y a la communication. En fait, le France Blood Bowl, c'est vraiment le truc qui fédère tout le monde pour ce genre de choses. Mmh. Donc soit il faut poster là-dessus, puis globalement le reste on s'en fout et les gens se débrouillent pour trouver le truc et ils vont là-dessus. Mmh. Et en fait, je pense que le Test Bowl, je sais pas s'il y a beaucoup de gens. Je pense que oui, parce qu'on reçoit quand même. Il y a peut-être quelques ligues majeures comme les Nantais. La Lutès, les gars du Sud, il y a plusieurs grosses ligues qui sont les Turon aussi, qui sont à contacter parce qu'il y a beaucoup de joueurs et donc il y a un pool de joueurs important, donc il faut les informer. Après, au Lutès, nous, c'est vrai qu'on avait pris le parti d'envoyer des mails à tout le monde, même les toutes petites communautés. Qui des fois on envoie des joueurs d'ailleurs. Il y a aussi les forums en ligne de, je sais plus comment ça s'appelle, le Franco Bowl et ce genre de choses, qui sont des communautés importantes. Et après, il y a aussi l'aspect international. Ça, c'est un truc qu'on essaye de faire, mais c'est très très difficile. C'est vraiment super compliqué d'avoir des... Parce qu'on a posté plusieurs fois chez les Italiens, les Espagnols. Les Anglais, on a une troupe d'Anglais qui vient régulièrement. On a quelques Espagnols qui viennent. Mm-hmm. Mais franchement, c'est... La communication avec l'étranger, c'est peut-être le plus compliqué.
C'est peut-être un truc que maîtrisent un peu mieux les communautés frontalières, entre guillemets. Je pense aux, aux Lillois du Ch'tibol, je pense aux, aux Toulousains, même si bon, ils sont moins actifs qu'ils ne l'ont été à une époque.
Ouais, mais quelque part, tu vois, là, il y a un côté local. Donc, et se dire si, si les Lillois communiquaient avec des Espagnols pour les faire venir, d'un coup.
Non, mais avec, avec des Belges.
Oui, non, mais c'est, oui, mais là, c'est comme si c'était leur quartier, en fait, d'une certaine manière, de, pour la communication. Quand c'est vrai que le Lutte Ball, on l'organise au centre de la France. Avoir des gens qui viennent de loin. Et c'est vrai que la, la distance fait le
C'est un des problèmes d'ailleurs, c'est que le Lutte Bowl, en tout cas pour parler de notre tournoi, il est pas vraiment à côté d'un, d'un point d'arrivée massif. Il n'y a pas d'aéroport franchement international.
Fait, on a peut-être un peu fait exprès aussi, d'une certaine manière aussi. Hein.
Non, mais pas loin.
Que, pas que ce soit près d'un aéroport, mais que ce soit centralisé, enfin dans un endroit.
Mais après, il y aurait eu un aéroport international à 50 km. Peut-être que les étrangers se prendraient moins de.
Faire d'ailleurs un aéroport pas loin de.
Je prends, je prends un exemple. L'an dernier, enfin pas l'an dernier, mais la dernière fois qu'on l'a organisé, donc en 2014, il y a quelqu'un comme Pipey qui m'a contacté pour parce qu'il voulait venir hein, et c'était vraiment franchement hyper compliqué pour lui. Il pouvait pas prendre le wagon de la troupe des Anglais puisqu'il y a pas de place dans la voiture. C'était le sixième quoi, et du coup pour venir il fallait qu'il prenne un avion déjà je sais pas 2 heures de chez lui, qu'il arrive à Paris, qu'il prenne un train. Enfin c'était vraiment l'enfer.
Ouais,
quoi.
Mais enfin il y avait pas moyen de le récupérer, de le faire récupérer par quelqu'un.
Bah si, c'est ce que je lui ai proposé hein, mais bon,
qu'il vienne à Paris, qu'il loge chez
ça, c'est pas
parce qu'il serait venu à Paris, il aurait logé chez quelqu'un.
Mais du coup ça veut dire qu'il faut qu'il arrive le jeudi parce que nous on part le vendredi matin.
Nous en tant qu'organisateur, mais il y a plein de joueurs qui jouent de Paris.
Oui, bah enfin voilà,
même l'héberger chez lui,
ça c'est pas fait. Maintenant au niveau de la communication internationale, moi je au niveau du Lutte Bowl, c'est vrai qu'on a vu les, enfin on a des habitués maintenant, les All the President's Men qui viennent maintenant de façon très régulière, et je pense qu'ils continueront à venir. Sauf si on commence à faire un tournoi tout pourri. La troupe de Frank Hill aussi qui essaye de se déplacer tous les ans, même si Frank je pense qu'il est plus ou moins en train de lâcher le Blood Bowl. En tout cas il va lâcher l'enquête de son tournoi à lui. Donc je sais pas s'il viendra l'an prochain. Je trouve qu'on voit de plus en plus d'équipes. Il y a une équipe en plus tous les ans. L'an dernier c'était les Espagnols qui sont venus,
qui ont bien performé en plus sur le tournoi.
Qui ont très bien performé en 2014. On a des contacts hein, à travers Bucks, puis des gens de la UT, ça se voit qu'ils se déplacent beaucoup en tournoi à l'étranger, ou nous-mêmes quand on va au trou de balle, ou quand on va à l'Eurobowl, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de gens qui nous disent qu'ils veulent venir, les Danois notamment nous ont dit ça. Il y a des Italiens, en l'occurrence Mad et Spartaco, qui commencent à être un petit motivés, donc peut-être que l'an prochain, il y en aura un peu plus encore.
Bon, en fait, de fait, c'est plus la communication, le fait de croiser les joueurs en vrai, j'ai l'impression, qui motive, plus que de les interpeller parfois.
D'où l'importance aussi de faire des flyers, ce genre de choses.
Je sais même pas si c'est ça qui fait la différence. Bah, en France,
t'as le truc physiquement dans...
Ouais, mais non, parce que les gens, en fait, tu vas avoir un super bon joueur. Je pense que c'est ça.
Je dirais, quand tu commences à rentrer dans les tournois et que tu connais pas encore trop, les flyers, c'est assez utile de.
Oui, bien sûr. Mais je parle par exemple pour des joueurs internationaux comme les Danois.
Bien sûr.
Le fait de croiser un très bon joueur français qui va venir jouer contre eux et qui leur dit, viens, on fait des gros tournois avec du gros niveau en France, ça va les motiver pour venir, en fait. Parce que finalement, c'est les gros gamers qui viennent se déplacer et qui font des 800 bornes, 1200 bornes pour venir faire des tournois. Il y a que ceux-là qui font ça, ou sinon, c'est des gens un peu atypiques comme Frank Hill, qui est l'archétype des gars qui sont capables de faire 1200 bornes pour faire un tournoi parce que ça les amuse. Simplement,
pour
ça
venir
les amuse,
jouer ogre.
Voilà.
Pour venir jouer ogre
full anticipation, si c'est possible.
dans le centre de la France.
Et non, mais c'est faire chanter c'est Queen bizarre, à tous les Français.
Voilà,
c'est bizarre à quoi ça tient, mais c'est vrai que Frank, c'était pas le profil du tout pour venir au Lutte Bowl, mais c'est le fait que nous, nous autres, lutétiens, on a commencé à aller à son tournoi,
exactement,
et comme ça jamais plus, on y retournait tous les ans, et du coup, ça a créé des liens, des ponts,
exactement,
et du coup.
Ouais, je trouve ça très personnel, le truc avec les étrangers.
Ouais.
C'est comme ça que je vois ça.
Et alors, maintenant, passons au sujet suivant, parce que. Donc là, on vient de parler de tout ce qui se prévoit, de tout ce qui se prépare, mais il y a aussi les galères, les choses qui ne se préparent pas. Alors,
on a quand même un petit peu parlé de galères en écoutant Kaorag.
C'est vrai, mais
alors c'est les galères qui t'arrivent avant le début du tournoi, mais
qu'est-ce qui t'arrive pendant ? Eh ben, Nathanaël nous en détaille quelques-unes. Je lui laisse la parole.
Bah, en théorie, ça se passe bien, mais bon, le gros souci, c'est les imprévus. Alors, les imprévus qu'il peut y avoir, comme pour tout le monde, c'est des joueurs qui manquent à l'appel. Ça m'est déjà arrivé 2 fois d'avoir un désistement la veille. Quand ça arrive, les 2 fois que c'est arrivé, il y a une fois où j'ai pu trouver un remplaçant. La veille. D'ailleurs, c'était Galmore. Il a pris un billet d'avion. Il est venu le lendemain. C'était juste hallucinant. Et une deuxième fois, j'ai pas pu trouver de remplaçant malgré mes 15 appels du soir. J'ai pas pu trouver de remplaçant. Et là, j'étais embêté. Du coup, c'est un organisateur qui a pris le relais. Et puis, on s'est retrouvé qu'à deux orgas. Et là, c'était compliqué à gérer. Des malencontreux événements qui ont pu se passer lors du NDC et que je souhaite à personne. Alors, je sais qu'une fois, le vendredi soir, on avait plus d'eau chaude, donc les gens étaient forcément en colère avec des pancartes et tout, et je les comprends tout à fait. Sinon, j'ai eu une alarme aussi une fois qui s'est déclenchée à 4h du matin. J'étais dégoûté. Et j'arrivais absolument pas à savoir comment l'arrêter. Un tournoi de Worms aussi qu'on avait fait. On fait, lors du NDC, on fait toujours un tournoi d'un jeu, un jeu rétro. Et à la dernière édition, j'ai reçu un tournoi de Worms et le PC a surchauffé, il s'arrête en pleine partie, donc ça a foutu la merde, c'est... Donc voilà, le genre de petites déconvenues qui peuvent arriver et qui te mettent toujours un peu mal à l'aise, mais au final, bon, les gens, ils comprennent, ils viennent pour passer un bon moment, donc ils te jettent pas trop des pierres en général.
Je pense plutôt que les inconvénients d'un site Nathanaël, en fait, quand t'es organisateur, tu les prends très très mal, tu te dis merde, ça foire, et quand t'es joueur...
Oui, t'en gardes à mon souvenir.
Limite, tu dis putain, et tu te souviens quand on a passé un putain, à 4h du mat, alors on a bu toute la nuit, on a fait un poker, et on était complètement défoncés pour jouer le lendemain.
Puis putain, il y avait pas de fromage. tu le ressors chaque année. Putain, j'espère qu'il y aura. Je viens que s'il y a du fromage.
L'autre, il a un PC tout pourri qui surchauffe, quoi.
Dans l'ensemble, organiser un tournoi de Blood Bowl, c'est facile parce que les gens, ils viennent vraiment pour prendre du bon temps et pour se faire plaisir. Alors, à part s'il y a vraiment des couilles majeures dans l'orga, s'il y a vraiment des gros problèmes, ça se passe toujours bien.
Non, à mon avis, le seul vrai problème, c'est quand t'as le classement qui foire. Quand t'as ton logiciel qui efface tout ce que t'avais enregistré, c'est là que tu perds du temps, que
les erreurs,
si c'est le samedi, il passe encore, mais quand c'est le dimanche, c'est...
Ouais, non, effectivement, il y a tout plein de petits imprévus, comme ça, qu'il faut toujours gérer au dernier moment. On en a eu notre lot au Lutèce Bowl, comme tout le monde. Je pense que s'il y a un point où il faut faire attention, notamment en France, parce qu'on n'est pas très bon là-dessus, c'est au niveau du timing. Il faut savoir être assez directif au niveau timing pour pas déjà le samedi finir vraiment trop tard parce que ça peut vraiment saouler tout le monde de finir à 21h par exemple, surtout si le tournoi là, tu rentres chez toi après tout ça et que t'avais prévu des trucs le soir. Et le dimanche encore plus important où les gens ils ont plutôt envie de rentrer assez tôt chez eux. Donc les soucis de timing, c'est faut pas prendre ça à la légère hein. Et il faut essayer de tout faire en sorte pour essayer de respecter, même si il y a toujours des débits à voir. Je pense que tu as envie de parler, Stéphane.
Ouais, en fait, les seules expériences négatives de tournois qu'on m'ait racontées, je ne citerai pas les tournois parce que c'est pas ça qui est intéressant. Tous les problèmes de timing, tout ça, à la limite, ça, je veux dire, c'est déjà arrivé que le rendez-vous Blood Bowl commence, il arrive, il a pas les clés, il repart, il revient. Je veux dire, ok, soit.
Je croyais qu'il
n'était
pas cité.
Hein? Non, mais là, c'était plutôt, tout le monde s'en fout, en fait. C'était ok, soit. En fait, les tournois où les gens ont un mauvais souvenir du tournoi, parce que c'est ça qui est important, en fait. C'est pas tant comment vit l'organisateur de son tournoi, il vaut mieux qu'il le vive bien, mais c'est quand les gens ont l'impression d'avoir payé énormément pour pas grand chose. Ça, c'est, les gens apprécient pas du tout. Ouais. Ils s'en souviennent très mal. Et la deuxième chose, c'est quand les orgas sont tellement stricts sur l'organisation qu'ils en viennent par pourrir le jeu en disant bah là il est 5h05, alors tu dois avoir fini ton match et t'es genre tu vas finir ton touchdown et le gars il te dit non c'est terminé et tu fais pas tes 4 cases. Et alors là les gens regardent l'organisateur et disent toi ton tournoi tu peux te le coller au cul l'année prochaine.
Ah voilà. C'est clair, c'est clair.
Il y a des cas comme ça.
Il y en a eu, je te le dis, c'est des expériences qu'on m'a rapportées, donc je ne citerai pas les noms des tournois, mais c'est la seule chose que j'ai entendu dire.
Il y a aussi effectivement la question du, mais je crois que tu l'as évoqué, du ratio entre ce que tu payes, ce que ça te coûte de te déplacer et ce que ça te rapporte, mais y compris, et d'ailleurs je crois que c'est un point que voulait aborder Pedro, la question du goodies et de finalement de ce que tu vas vouloir ramener. Oui, donc tu en parlais un petit peu pendant le Manetto sur l'importance de préparer le tournoi en tant qu'organisateur et notamment au niveau de la fabrication des goodies.
Je vais essayer de faire peut-être un petit laïus accompagné avec mes comparses organisateurs pour peut-être préciser un petit peu les gros points qu'il y a qu'il faut prévoir pour organiser un tournoi et les axes de travail basés sur l'expérience qu'on en a nous au niveau du Lutèce Bowl. Parce que bon, préparer un tournoi, enfin pendant le tournoi, comme on le disait tout à l'heure, y a toujours des trucs à faire et de mettre la main à la pâte. Puis en fonction du nombre d'orgas que t'es, enfin il y a de toute façon toujours des trucs à faire.
Il faut avoir un nombre d'orgas conséquent par rapport au nombre d'orgas.
C'est un truc dont on voulait parler.
Mais il y a toute une partie, enfin tout le travail se fait en amont du tournoi et faut quand même. Dans le meilleur des cas, sauf pour le Nabo ou bon, Riri, je sais pas comment ils font ces gens-là pour organiser un tournoi.
Bah ils font pas.
Il faut quand même essayer de prévoir les choses. Les gros points importants, c'est organiser les repas si le repas est prévu dans le tournoi.
Les Nabo ils ont des pizzas, c'est super bien organisé. T'appelles, tu manges, c'est top.
Non mais voilà. Donc après ça dépend vraiment de l'orga de chacun, du type de nourriture qui est prévu. Mais je sais que pour parler du Lutèce Bowl par exemple, nous on prend la majorité de la nourriture, tous les trucs préparés, on les prend au Super U qui est pas très loin du lieu du tournoi. Donc pour 150-200 joueurs, faut prévoir, ouais, c'est lourd. Hein. Donc on leur loue, ils nous prêtent un fourgon réfrigéré dans lequel ils mettent tout et ils nous le ramènent. Donc ça c'est plutôt intéressant.
Mais ouais, c'est des facilités extrêmes ça. Surtout qu'on peut leur rendre tout ce qu'on n'a pas consommé. Enfin, c'est juste.
Et toute l'autre partie, on va faire les courses en général avec le marquis de Slan Mortis et puis quelqu'un d'autre parce qu'il faut des bras. On va faire les courses au métro du Tour. Hein.
Ceux qui doivent organiser le tournoi aussi, il faut qu'ils se renseignent pour savoir s'il n'y a pas un métro dans le coin. Parce que en termes de facilité, de prix et de facilité d'accès, c'est.
Ça dépend si
le coût du Super U là, il est énorme quoi. Enfin.
Oui, bah ça c'est vrai que c'est hyper pratique d'avoir le fourgon.
En fait, le super qu'on a à côté du tournoi à Brèche, il dit vous prenez ce que vous voulez, on vous le met dans un fourgon réfrigéré, on vous l'amène, et tout ce que vous n'avez pas consommé, on vous le reprend. Je veux dire, non mais c'est ce qu'il dit.
Non,
mais
beaucoup de Super U font ça, c'est bon à savoir.
Non, c'est tous les trucs fermés en fait, les bouteilles, enfin les trucs d'alcool.
Ils te reprennent pas les boîtes de conserve à moitié bouffées.
Non,
ils te reprennent pas consommé.
Non, tous les plats préparés, ils le reprennent pas.
Ah non, je parle pas de la bouffe, je parle de la boisson surtout. Non, mais la boisson c'est un grand. Il y a des variations de consommation selon la température, les gens.
Que fracasse viennent ou pas.
C'est ça le plus important.
Et en fait, le truc c'est que les erreurs de calcul sur les tournois, c'est aussi ce genre de choses, c'est de surestimer ou sous-estimer la consommation des gens, quoi. Et savoir de ce genre de facilité, c'est quand même.
L'orient ratio, nombre de litres par personne, en fonction de l'origine géographique.
Franchement, au Lutèce Bowl, on a pu voir des disparités complètes selon la température qu'il faisait.
Ouais. Oui, bah plus il fait chaud, et
donc
plus,
c'est plus la perte de l'année.
Plus les gens boivent.
Et puis, plus les gens boivent, mais pas forcément de l'alcool. Ils vont te défoncer le coca et des trucs, et pas, enfin, ça va être, c'est assez anarchique en fait.
Et là on est toujours nul au Lutèce Bowl, c'est pour prévoir au niveau du pain, on sait jamais combien il faut. Et c'est hyper compliqué de savoir, on se retrouve des fois le vendredi, on a mangé tout le pain du week-end, donc il faut aller en catastrophe, aller chercher, gauler 30 baguettes à la boulangerie du coin, alors que les mecs, ils ont pas prévu. Donc,
il y a toujours
plein de trucs marrants à faire, à voir en tout cas au niveau de la bouffe.
Dans le principe, ce qu'on a pu voir sur l'organisation d'un tournoi, c'est que on fait énormément de travail avant. Tout ce qui est goodies, mise en place, contact des gens pour tout ce qui est pour le logo aussi, mais il y a aussi tout ce qui est goodies, tout ce qui est gestion de la bouffe, tout ça avant. On fait toutes les estimations en général avant. On sait déjà tout ce qu'on. Le pain, je pense que vous saviez ce que vous allez commander avant. Et limite, il y a le samedi matin ou le dimanche matin ou le samedi soir. Je me suis plutôt le dimanche matin s'il y a un refil à faire.
La dernière fois, le pain, on a dû faire un réassort deux ou trois fois alors que c'était pas
prévu. Voilà, mais dans le principe, on gère sur l'instant, mais on fait des prévisions au départ en disant l'année dernière, l'année précédente, ça s'est passé comme ça. Et c'est vrai qu'il faut avoir quand on répète l'expérience du tournoi, la première fois, ça doit être vraiment l'enfer en fait, parce que tu sais vraiment pas comment ça se passe. Mm-hmm. Moi, je me souviens que les premiers on était au fort là, quand il y avait les gestions de la vaisselle et tout ça, c'était juste. Je me souviens que c'était des trucs. Je me souviens encore de Slade qui racontait ces trucs-là comme des galères absolument incroyables.
La solution de faire laver sa vaisselle à chacun. Quoi.
Et c'est ce qu'on a fait au Lutèce Bowl parce que en fait c'était tellement. Franchement, je crois que c'était vraiment tellement un enfer de faire pour tant de gens la vaisselle. Mm-hmm. Ça prend tellement de temps en fait que si tout le monde passe deux minutes à faire sa vaisselle déjà pour l'organisation, je veux dire, ça enlève des heures de travail en fait.
Pour un gros tournoi comme ça, c'est le fait de faire les choses vraiment à l'avance. Parce que au Lutèce Bowl, tout est, je veux dire, avant le tournoi, tout est déjà bouclé en fait. Il y a plus qu'à faire.
Ça c'est une évidence. Mais combien de temps avant le tournoi surtout?
C'est une évidence, ce qui paraît, le Nabo se passe pas comme ça.
Non, mais ça dépend en fait. Pour la nourriture, il faut faire la commande à peu près un mois avant le tournoi. Donc en fonction de la tendance qu'on a prévue, on fait ça, sachant qu'il y a toujours moyen de rajouter ou d'enlever une semaine ou deux semaines, enfin tant qu'ils n'ont pas fait les plats préparés par exemple, il y a quand même moyen d'ajuster un petit peu. Pour tout ce qui est goodies, peinture d'Elo, tout ça, donc ça il faut s'y prendre un peu plus à l'avance. Je pense que Stéphane pourra en parler un peu plus précisément que moi.
Après, le fait est que tout ça là, je veux dire, en parler dans les détails, c'est un peu peut-être trop concret pour quelqu'un qui voudra organiser un tournoi, parce que on a des procédés au Lutz Bowl qui font que bah on a des trophées.
En fait, faut surtout qu'il se renseigne bien autour de tout ce qui, enfin, faut surtout qu'il se renseigne bien sur toutes les possibilités dont il dispose autour de son lieu de tournoi. Qu'il n'hésite pas à démarcher plusieurs supermarchés, plusieurs machins.
Oui, soit, mais le principe de base, c'est de ne pas se laisser déborder parce qu'on a prévu et que ça ne s'étale pas dans le temps de manière infinie. Mm-hmm. Parce qu'en fait, si on n'a pas fini les choses à l'avance, on finit par avoir à la fin un rush ultime pour essayer de tout boucler. Mm-hmm. Et c'est la situation dans laquelle, je pense, on ne s'est jamais trouvé au Lutz Bowl. Mm-hmm. D'avoir un rush de fou à faire à la fin en se disant, bah, il nous reste plein de tellement de trucs à faire qu'on ne sait pas comment on va faire pour tout faire, en fait. Mm-hmm. Et donc avoir en gros la possibilité de ses ambitions dans ce qu'on est en train de réaliser, en fait.
Y compris en termes de bénévoles, ça a jamais posé de problème au niveau du Lutèce, justement, d'arriver à trouver suffisamment de monde pour faire bouillir la marmite.
Bah, ça s'y prend à l'avance aussi pour.
En fait, il y a une année où ça s'est excessivement mal passé. Mm-hmm. Alors je sais pas si des gens s'en souviendront autour de la table, c'était quand on a fait le tournoi à Saint-Denis. Donc c'était avant qu'on soit à Tours, on était dans un fort dans l'Aisne, et avant qu'on soit dans ce fort militaire.
C'était pas le gymnase avec les chaises d'enfants à la cantine.
C'est ça. Donc c'était dans une petite ville dans le sud de la région parisienne.
Je crois.
Et c'était une sorte de salle communale ou salle des fêtes machin. C'était très sympa. C'était dans la forêt, pas loin, il y avait des champs, tout ça. C'était vraiment cool. Mais le gros problème qu'on a eu, c'est qu'il y avait de mémoire 90 joueurs prévus, et c'était la première fois qu'on avait décidé de faire un tournoi par équipe de 5. Mmh. Et donc après on est resté sur ce modèle, mais là c'était la première année, et en fait il y a eu 5 désistements. Donc il y avait
4 équipes ou
5 joueurs qui sont désistés, et il y avait 5 orgas. Et du coup, le fait que c'était un tournoi par équipe de 5 et qu'il y ait 5 personnes qui n'étaient pas là, il a fallu que tous les tournois se mettent à jouer, à compléter. Tous les orgas ont dû jouer dans des équipes pour compléter. Et du coup, il y avait 0 orga pendant les matchs, et finalement, chacun essayait de jouer le plus vite possible. Donc, moi, je crois que j'avais pris une équipe de gobelins au grand détriment de l'équipe de Ariel dans laquelle je jouais. Et je jouais mes matchs le plus vite possible pour justement finir le plus tôt, récupérer les machins, gérer. Heureusement, cette année-là, on avait un cuistot qui avait fait notamment des crêpes, c'était plutôt bien passé.
Est-ce que t'as joué contre Bozo pendant ce tournoi, par hasard?
Non, j'ai joué contre
Actar,
contre Matt le Fou, je me souviens très bien.
D'accord.
C'était très marrant. Et bon, on n'a pas eu que ça comme galère sur ce tournoi-là. Je crois que une personne de la mairie était venue le dimanche pour râler parce que on avait fait les trucs pas correctement selon elle, alors que bon. Et du coup, il a fallu gérer plein de petits à côté un peu négatifs, et c'était tellement un mauvais souvenir pour moi, cette histoire d'avoir 5 orgas qui devaient jouer, et qu'il n'y avait plus personne pour l'orga que...
Mais 5 orgas, déjà de base, t'as eu du mal à les rassembler, ces 5 orgas, tout devait bien se passer avec 5 orgas, et tu t'en faisais pas
tout devait bien se passer avec 5 orgas. 5 orgas, c'était plutôt une grosse troupe à l'époque, quoi. Maintenant, c'est vrai que depuis...
C'est vrai qu'on s'occupait de 90 joueurs, ça va.
Depuis, on a hissé les standards, et du coup, c'est vrai que l'an dernier, on était en une quinzaine d'organisateurs au Lutz Bowl, peut-être l'an d'avant, on était un peu plus, même encore. Donc moi, c'est le chiffre minimum que moi, il me faut, en tout cas, pour être vraiment serein. C'est pour 150 joueurs, c'est une quinzaine de personnes, quoi. Mmh. Et maintenant, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que le plus t'es d'orga, et le plus c'est agréable d'organiser.
Parce que ça allège la tâche, en fait. D'un coup, ça devient simple. Mmh. Plus il y a de gens pour organiser, et plus c'est simple.
Et plus c'est simple, et plus les gens, ils ont aussi du temps pour discuter entre eux, pour aller voir les.
Pour faire de l'arbitrage un peu sympa sur les matchs, tout ça.
Et je pense que ce qu'il faut dire, ce qui est vraiment intéressant de dire, c'est que organiser, c'est vraiment un trip, mais super agréable et super excitant, quoi. Mmh. Moi, j'adore organiser du Lutz Bowl. Le jouer, ça me ferait très plaisir aussi, je pense. Mais l'organiser, c'est vraiment un trip à part que je kiffe, grave.
La recherche d'orga, c'est aussi un problème que vous avez dans vos communautés de pousseurs de cartes, là.
Déjà ce qui est ça, c'est fait, non?
C'est joueur de quoi?
Les pousseurs de cartes. Ouais, c'est comme ça, les pousseurs de figues,
les pousseurs de cartes, écoute.
C'est ça, d'accord. Les pousseurs d'autre chose, mais c'est autre chose.
Rien de péjoratif là-dedans,
pas du tout. Bah nous déjà on a moins le problème d'orga pour tout ce qui est bouffe. Donc, parce que souvent, c'est comme on a des pauses. Alors, je pense que vous faites des pauses plus grandes. Comme vous avez que 3 matchs dans la journée, les pauses de midi sont souvent.
Toi, tu leur interdis
en général.
Comme on doit faire 7-8 matchs d'une heure dans la journée, c'est du 10h
Et parfois, ça termine. On a déjà eu des tournois qui se terminaient à 3-4 heures du mat quand c'était les gros CF.
Et ça, il n'y a pas de problème de bouffe, là.
Bah, c'est jeune, vous bouffez en une heure, il y a des kebabs, des trucs à côté. Bah, on a décidé de faire comme ça et on tourne souvent à un ou deux organes en joueur. Un scorekeeper et parfois un arbitre en joueur, mais souvent.
C'est vraiment très très peu, quoi.
Ah oui, c'est, là, c'est, ça n'a rien à voir avec. Enfin, j'entends à toutes les orgas à 15 organes non-joueurs, non, on n'a jamais ça. On tourne à un non-joueur, souvent c'est les arbitres aussi des joueurs, comme les parties peuvent se terminer très vite, certains peuvent se rendre dispo pour d'autres choses, donc non, on a moins ce problème.
Et du coup, pour la bouffe, tu disais, vous faites.
C'est
vous prévoyez des trucs
des
hyper simples, des sandwichs, des machins.
Oui, voilà, c'est bon, on se met un coin où il y a des choses à côté, parce qu'il n'y a rien, on essaie de faire une buvette des fois, mais ça c'est. C'est souvent quand on arrive à être beaucoup d'organes en jeu. On l'a fait une fois en 2013 au championnat de France de tous les JCE, tous les jeux de cartes évolutifs. On l'a fait à Boulogne. On était 6-7 organes en joueur. On s'est dit, on va faire une buvette, ça va être pas mal. C'était pas mal, il y avait l'orga, donc on était passé par le système métro, etc.
D'accord.
Donc ça allait bien. C'est la seule fois où on l'a fait avec beaucoup d'organes en joueur. Sinon, on arrive à tourner à. Un peu. On a quand même beaucoup d'organes en amont pour préparer les lots, les trucs, les hébergements chez l'habitant. Mais c'est par des joueurs. Donc voilà, on arrive.
Oui, il y a quand même pas mal de différences en fait entre le jeu organisé.
Avec l'affluence déjà, c'est pas la même. Nous, les championnats de France, c'est. Alors ça dépend du jeu, mais on va dire le plus populaire, Trône de Fer, c'est championnat de France, on était 100 joueurs.
Ouais, mais c'est déjà pas mal.
Voilà.
100 joueurs qui font 9 matchs sur une journée. Donc,
Que nous, à la Coupe du Monde, on est un peu 900.
Ouais, c'est pas pareil.
Bon, voilà quoi. Je veux dire, on n'est pas dans la même catégorie.
Mais c'est intéressant parce que tu parles de la Coupe du Monde et de la préparation en amont. Si tu regardes comment eux s'y sont pris pour leur tournoi, tu te rends compte que plus le tournoi est important, plus tu dois être strict dans ta préparation en amont. Genre, imposer une date limite d'inscription, genre passer telle date, c'est fini, tu t'inscris plus. Tu dois payer avant, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure.
Je pense que les frais qu'ils ont d'organisation, je veux dire, tu peux même pas te permettre de faire.
Alors qu'ils doivent avoir un soutien de la mairie qui est assez conséquent.
J'imagine.
Tu vois la communication qu'ils font autour justement des photos avec le maire et tout.
Et c'est pour ça aussi que nous, comme on n'a pas, comme je disais, l'orga de bouffe et même parfois l'orga de salle, parce qu'on passe par un magasin souvent. Quand c'est un grand magasin qui peut accueillir, et ben on n'oblige pas les paiements à l'avance parce que bon, c'est pas des grosses finances qu'on a pour nous, de grosses dépenses.
Oh, mais c'est combien un petit tournoi? C'est combien de joueurs? Une dizaine, quinzaine?
Non, enfin, un petit tournoi, ça, on va dire un tournoi type l'équivalent Coupe de la Dèche, enfin un truc local chaque année dans une ville.
Tu craches un peu sur la Dèche, moi?
Non, c'est un truc.
Il essaie de faire un parallèle.
La Dèche, c'est le plus grand tournoi français, parisien, je veux dire.
Intramuros. Ah non, même pas intramuros.
Le tournoi annuel à Vincennes. Le tournoi annuel à Vincennes. L'équivalent chez nous, ça serait un open qui serait à 25-30 joueurs, à peu près.
D'accord.
Donc c'est.
C'est pas très très loin. Ils ont combien à la Dèche?
70. 70, je crois, l'an dernier.
Ouais,
70.
Je crois que c'était.
Ils sont montés jusqu'à 80.
Si, je crois que c'est un. Mémoire, j'ai fait deux derniers, mais ça a monté.
Et ça, c'est très très bon.
C'est les discours de Benoît qui font que.
Donc, du coup, à partir de ça, comme t'as pas.
Et le toucher de Slanesh.
Oui, facilement.
Les PAF sont souvent à 10 euros à peu près, 10 ou 15. Si les joueurs. Enfin, il y en a beaucoup qui s'inscrivent, mais t'en as qui, on les fait pas payer à l'avance, parce que si y en a qui manquent, ça nous fera pas un gros trou dans les dépenses.
Mais vous avez besoin d'avoir des paires de joueurs aussi? Ou pas du
tout? Non, c'est.
Bah voilà, il y a aussi ce problème chez nous, c'est que.
Bah, il y a pas que les tournois par équipe chez vous. Enfin, c'est.
Non, c'est pas ça, c'est que. À Blood Bowl, si t'as pas un nombre pair de joueurs, t'as un orga qui est obligé de venir.
Ah oui, mais nous aussi on fait ça, alors. D'accord. Nous aussi on fait ça, mais après, si on est un pair, qu'on a pas assez d'orgas non joueurs, s'il y a certaines communautés où t'as genre un seul orga et qu'il a envie de jouer. Ça existe des fois. On peut passer par des bails, comme on dit. C'est un bail perdant. Comme on fait 6 matchs dans la journée, on peut. À Blood Bowl, c'est plus chiant. Parce que sur 5 matchs, il y en a que tu joues pas parce que manque de bol, t'as été tiré au sort ou pour ne pas jouer.
En général, ce qui se passe, si je me souviens bien, parce que j'ai fait quelques tournois de Trône de Fer à l'époque, c'est que pour la première ronde, la personne, en cas de nombre impair de joueurs, lors de la première ronde, il est tiré au sort, le joueur qui joue pas, qui a une victoire automatique. Et ensuite, c'est le dernier du classement qui
prend un bail.
Qui va gagner une victoire symbolique.
C'est censé être le mec qui perd contre tout le monde. Donc, forcément, il affronte le plus faible et il gagne forcément, sans jouer.
Je vais dans l'orga, je vais changer un tout petit peu de sujet, mais je vais parler du goodies. De manière un peu plus spécifique.
Parce que j'ai essayé d'avancer au début, puis on a un peu mal dévié, donc vas-y, merci de nous remettre sur les rails.
Moi, quand je suis arrivé pour faire des goodies, à la Lutèce, quand je suis arrivé, le président, c'était cool. Mm-hmm. Et quand j'ai proposé, par exemple, de faire le premier jeu de cartes.
Parce que maintenant, c'est moins
cool. c'était cool avec un K. C'était la coolitude.
Cool.
Le crazy. Maintenant, c'est cool avec un Q. Voilà.
C'est cool
avec un gros cul, enfin un petit cul, voilà, grand cul quoi.
Mais un grand cœur.
Tant qu'un petit bouchon.
Enfin, toujours est-il que quand je suis arrivé, déjà cool était dans cet esprit qui disait on fait beaucoup de propositions, mais il y a jamais grand chose qui se passe, parce que effectivement, on remarque souvent qu'il y a beaucoup de gens qui lancent des idées, mais que quand la réalisation suit assez rarement en fait. Donc en fait, quand je lui ai proposé ça, elle a fait ouais vas-y, genre ça ne se produira
genre,
jamais.
C'est cool.
Et en fait, je l'ai fait. Parce que bon, c'est un peu comme ça. Moi, je fonctionne comme ça. Quand je dis un truc, je le fais. Puis bon, voilà.
Et déjà, t'en dis non, mais on s'en fout. En fait.
Non, ça a beaucoup plu. On l'a fait, bien. Le goodies. C'était le jeu de cartes spécial. Ça a beaucoup plu. Et c'était un truc dont le jeu avait vraiment besoin. Donc, voilà.
Moi, effectivement, c'est pratique.
Je crois que c'était essentiel.
Ça s'appelle identifier un besoin et le satisfaire. Voilà. Ce qui est important pour les goodies, d'ailleurs, je trouve.
Oui, bien sûr. Mm-hmm. C'est comme ça qu'on a fonctionné, d'ailleurs, pour les goodies du baseball. Mais alors pour le goodies en particulier, bon, il y a cet aspect convaincre que du truc qu'on va faire, on va le faire déjà, et puis on le fait et le faire tout court, et de, que ce soit quelque chose qui soit nécessaire et utile. Mm-hmm. Après, j'ai pas dit que c'était obligé, c'est pas une obligation que ce soit nécessaire et utile, mais c'est bien qu'on trouve un aspect du jeu qui a pas été fouillé, où il y a un truc à faire en fait. Mm-hmm. Et c'est vrai que les meilleurs goodies souvent c'est des choses auxquelles t'as pas pensé, et
un jeton apothicaire.
Oui, il y a plein de trucs comme ça, les relances de chef.
Une star qui n'existe pas.
Un jeton apothicaire.
On a eu ça.
C'est ce qu'ils avaient fait au UK Team Challenge.
D'accord.
Outre ça, je vais revenir sur un aspect qui est un peu différent, mais c'est la quantité de joueurs par rapport aux goodies. Mm. Et en fait, ce que je crois dans ce que j'ai pu voir par rapport aux quantités, déjà, nous on a un système de fonctionnement. Moi, c'est une stratégie presque que j'avais mis en place pour le goodies du Lutèce Bowl, c'est de dire, on va en créer plus que le nombre de joueurs que j'ai apporté. Comme c'est un truc qui manque au jeu, ce qu'on a essayé de faire, enfin, on espère que c'est un truc qui manque au jeu, parce que c'est toujours un pari, hein, d'une certaine manière. De toute façon, l'excédent, on va le vendre pour financer le goodies en lui-même, en fait. C'est-à-dire qu'on a acheté le goodies à un certain prix, on va le revendre en essayant de faire un petit bénéfice dessus pour le rembourser, et offrir à tous les gens qui sont sur le tournoi le goodies. Mais comme en général, c'est un truc que les potes, ils aimeraient bien avoir, les gens qui sont sur le tournoi vont en prendre en plus, et déjà, ils vont en prendre en plus pour leurs potes, si jamais c'est vraiment intéressant. Mm-hmm. Et outre ça, aux autres tournois, on vient avec sa petite mallette de démonstrateur, et on revend les machins. Et finalement, en fait, les goodies de la Lutèce ont très bien marché aussi pour ce fait-là, c'est que ils sont financés eux-mêmes. Et dans les calculs initiaux qu'on faisait par rapport à ça, on calculait le prix qu'on allait vendre le goodies, le bénéfice qu'on allait retirer, et ce qui allait se rembourser du goodies naturellement par sa vente. Mmh. C'est-à-dire qu'on disait, quand on aura vendu tous les goodies, ça peut prendre un an ou deux ans, hein, c'est pas forcément immédiat, quand on aura vendu tous les goodies...
Ou 10 ans.
Oh, ça dépend lesquels, mais il y en a qui ont moins de succès, mais on le savait aussi que ça aurait moins de succès. Parce qu'on a aussi essayé d'estimer objectivement de l'intérêt du goodies. Par exemple, le jeu de cartes des
stars.
Non, pas des stars, le jeu de cartes...
Des Kubas.
Pas du tout.
Ça, des actions spéciales.
Voilà. Non, c'est des trucs, des inducements, voilà.
Ah oui.
Enfin, tous
ça,
les inducements.
Ça marche bien.
Il est moins utile, mais c'est une évidence.
Parce que les gens le gardent en tête, en fait.
Oui, mais parce que c'est un truc que t'as pas besoin de cartes, en fait. Mm-hmm. C'est un peu un luxe, d'une certaine manière. Les champions et tout ça, c'est vraiment utile.
Ou c'est pour les mecs comme moi qui prennent un sorcier puis qui se rappellent, qui oublient.
Ah oui, c'est la carte. Tiens, j'ai un sorcier.
Tu te le colles sur le front, du coup, tu le t'y penses tout le temps.
Voilà. Je pense que c'est
des. Non, tu colles sur le front. Tu le colles sur le front de l'adversaire.
Ils ont savait qu'il serait moins utile. Et donc, il serait moins vendu et qu'il nous en resterait plus sur les bras, ou qu'il fallait en faire moins. Et de fait, on a fait aussi moins. Ce genre de choses, on en a fait moins. Et donc, mais dans le calcul initial, on a toujours calculé l'argent qu'on allait récupérer globalement sur ce qu'on allait vendre derrière. Et j'ajouterais aussi une chose, que la quantité de joueurs qu'on a, moi j'ai remarqué ça, hein, plus on a de joueurs et plus c'est simple. Parce qu'en fait, les budgets deviennent tellement colossaux, globalement, du tournoi, hein, que bah, en fait, ça s'intègre vachement plus facilement dans le tournoi. Après. C'est là que il est très important de faire payer les gens à l'avance, hein, parce que si tu te fais planter, là c'est juste la mort, quoi. Mmh. Mais comme évidemment on a des règles de faire payer avant les joueurs, voilà. Mais voilà.
Après, tout ce que tu dis, c'est sous réserve que tu disposes dans ta ligue, dans ton âge proche, dans ton orga, ou des compétences pour fabriquer ce genre de goodies, ce qui est pas toujours le cas. Mais il y a toujours moyen de contourner ça. Je sais pas moi, en faisant gagner. bah t'es dans le sud-ouest, tu fais gagner un jambon, t'es dans le nord, tu fais gagner une bière locale, enfin pas gagner, pardon, tu fais gagner à tous ceux qui viennent un pack de bière locale.
Oui, bien sûr, oui.
Voilà, non mais je dis ça parce que si jamais il y en a qui nous entendent qui font ah oui, non mais moi je sais pas sculpter.
Mais c'est un super goodies ça.
Bah, je vous rappelle le bowl des vignes où tout le monde repartait avec sa bouteille de vin avec le numéro de son classement. Moi j'ai bu ma bouteille pour oublier. Parce que mon numéro de classement était sur ma bouteille.
Super, ton numéro en a.
T'as envie de la faire disparaître le plus vite possible.
En fait, on te file une bouteille d'alcool et le degré d'alcool, c'est ton classement.
Mais je crois qu'en fait, les premiers au classement avaient des crus bourgeois, des trucs. Des
voilà,
trucs
ils avaient bien fait les choses parce que plus t'étais au classement et plus tu devais garder ta bouteille pour qu'elle soit bonne.
Toi, t'as fait une sangria, quoi.
Non, mais bon, voilà. En fait, quand tu vois.
Du bœuf
genre, il y a 60 joueurs, t'es 54, ta bouteille, tu la bois vite. T'oublies vite. Tu lui mets vite la mettre dans la poubelle pour oublier ce moment.
Pas trop vite, quand même, parce que c'est pas très bon, quoi.
Oh, tu sais, finalement, ça permet d'oublier, parce que ça attaque fort, quoi. Mais voilà, c'est des souvenirs, par exemple, qui sont pas des trucs, des goodies blood ballistiques en soi, le bol des vignes. Mais c'est un très bon souvenir, le fait que tout le monde ait récupéré. Tout le monde a une bouteille de vin, en fait. Et puis, dans le thème du tournoi, enfin, c'est très, très
bien. Même des boîtes de jeux, de jeux de société ou quoi, si c'est pas un truc forcément local, ça passe aussi très bien.
Oui, mais alors.
Après, filer une boîte de jeux à tout le monde, ça revient cher.
Mais par contre, voilà.
Non, mais un petit truc, genre un love letter, organiser, quoi, c'est un exemple.
En plus, le truc, c'est que. Ah oui, je parlais de la masse aussi d'achat, c'est que quand on achète en masse, les prix tombent aussi. Mm-hmm. Par exemple, si t'achètes trois bouteilles de vin pour 3 personnes, bah, ça va te coûter un peu cher. Mais si t'achètes 70 bouteilles de vin d'un coup, tu commences à avoir des tarifs auprès de la personne qu'elle t'achète, et ça commence à devenir peut-être plus intéressant. C'est vrai que la masse d'achat fait aussi que ça devient plus rentable.
Faire des économies d'échelle.
Un exemple des sesterces. C'est pas un goodies en soi, mais les sesterces, si on avait voulu créer une série de 100 pièces, ça nous aurait coûté la peau du cul. On en a fait 5000, et d'un coup, les prix étaient complètement abordables, quoi. Mm-hmm. Bon, après, évidemment, on a tracté avec des enfants chinois qui travaillaient dans des conditions un petit peu plus que... on va s'arrêter là.
Moi, il y a un truc que j'aimerais bien entendre, en tout cas autour de cette table, c'est on a parlé du Nabo tout à l'heure, bah, j'aimerais bien savoir.
Oui, tiens, c'est vrai ça.
Les dessous,
tu es bien silencieux, les dessous d'organisation de ce tournoi mythique.
Non, je suis pas silencieux, je vous écoutais même pas, j'étais en train de prendre des notes.
Sur quoi, sur le Nabo et sur les améliorations pour pouvoir apporter?
J'attends de voir, c'est quoi le Nabo, c'est moi qui débarque.
Ah bah justement,
c'est vrai que si tu es là depuis moins de 5 ans, tu peux ne pas savoir ce que c'est le Nabo.
Oui, facile, oui.
Tu sais, on t'a expliqué ou pas?
Qu'est-ce que c'est que le Nabo alors?
Oui, que le Bux, responsable pour le Nabo.
Non, moi je suis responsable de rien du tout, j'ai juste aidé une fois ou deux pour essayer.
T'étais à côté de lui, mais à côté de Dark Troll, on t'a vu.
Le Nabo, c'est le tournoi le moins organisé de France.
C'est le tournoi, on dit le tournoi fantôme.
D'accord.
Le tournoi qui se déclare une ou deux semaines à l'avance.
Non, mais tout ça, c'est parce que c'est des stars de Blood Bowl qui organisent.
Les mecs qui créent la hype, tu vois.
Là, par exemple, si on prend cette année, moi j'ai préparé un petit peu la rubrique des tournois à venir. Il n'y a aucun tournoi en décembre. En tout cas,
pour le moment,
tournoi référencé en décembre.
Jusqu'à fin novembre.
Pour le moment.
Jusqu'à fin
novembre. Il n'y a rien.
Bux, qu'en est-il? Est-ce que 3 jours avant le tournoi, vous allez trouver une salle qui va être modifiée par la suite?
Déjà, j'ai pas eu de nouvelles de Willem depuis un moment, ni de la mangouste, donc je pense pas qu'il souhaite refaire cette année le Nabo, mais bon, sait-on jamais.
Mais le Nabo, il y a un petit côté le Corrigan là avec son pot de.
C'est un peu le Leprechaun.
Voilà, exactement. Il apparaît, il disparaît, on ne sait pas vraiment pourquoi les arc-en-ciel de temps en temps apparaissent.
Il apparaît, il prend ton pognon, il se barre.
Moi, chaque fois qu'il y a eu le Nabo, c'est produit, j'ai trouvé que c'était un tournoi formidable, personnellement. Hein. Mais c'est vrai que bon, il y a un genre d'aléatoire. Tout le monde sait que le Nabo.
C'est un peu l'aléatoire, quoi. Ça peut disparaître sur un
doute. Le truc, c'est qu'à
une époque,
il y a eu pendant plusieurs années où le Nabo, c'était le dernier tournoi de l'année et que du coup, c'était le moment où on rendait le trophée du championnat de France et tout le monde voulait. Tous ceux qui avaient encore une chance.
C'était trop de pression pour vous.
Quand il y avait du suspense, tu veux dire.
Quand il y avait encore du suspense.
C'est le top of the top. La crème de la crème.
Bon, je pense qu'on n'en saura pas plus sur les méthodes d'organisation de ce tournoi.
Il vaut mieux pas savoir.
Bah, il y a un numéro de téléphone, c'est Spizza 30. Enfin, c'est pour la bouffe. C'est pour la bouffe.
J'ai entendu des histoires
vraiment
bizarres.
Vraiment, à une époque, ce qui était bien, c'était que on allait le soir à la ludothèque de la Mangouste. Et que pour le coup, il y avait peut-être 400 ou 500 jeux dans son truc. Du coup, on passait toute la nuit à jouer.
J'ai d'ailleurs entendu des histoires bizarres qui auraient pu se passer pendant ces soirées-là.
C'est d'ailleurs à ce tournoi-là que White a disparu.
White?
Il est parti au chiottes, on l'a jamais revu.
Mais White, c'est bien le mec qui voulait devenir joueur de poker professionnel, non? Ou je confonds?
Écoute, je sais pas, mais en tout cas, je sais qu'il joue souvent au poker.
Sans déconner, vous avez un gars qui est venu et il a disparu, il n'est plus jamais revenu.
Non, mais ouais, c'est un joueur important de la communauté française de Blood Bowl du début des années 2000. On va dire qu'il a participé à l'équipe de France de Blood Bowl à l'Euro Bowl en 2005.
Tu veux dire qu'il a gagné avec Mamar?
Il n'avait pas trop l'habitude de, les deux à la fois, pas trop l'habitude de gagner, mais c'était un super.
Bah, maman,
un super joueur, en tout cas bien dans l'esprit, et c'était un mec qui venait de Rouen et donc qui organisait entre autres le NDC avant que ce soit
Nathan RTC NAF avant Nat en fait.
Les ancêtres quoi.
White, c'est l'origine de la porte des étoiles, c'est White qui a inventé cette expression quoi.
Les filles dans les chiottes, c'est, bon. C'est moche.
Bon bah messieurs, je crois que on a fait le tour du sujet. Je vous propose de finir par une petite synthèse, genre les gros conseils, les principaux conseils à donner à ceux qui débutent. Alors soit vous, mais déjà je vais surtout laisser céder la parole pour finir à Nathanaël et Kaorag, puisque c'est la question que j'aurais posée. Quels conseils donneriez-vous à des petits nouveaux?
Bien choisir la date. Soyez pas en même temps qu'un gros tournoi, parce que nous on a eu de la chance, on s'est mis en janvier parce qu'il y avait personne. Demander les paiements au moins un mois à l'avance et donner une date limite d'annulation. Vous pouvez rembourser et puis après, non, on arrête là. Désolé les mecs, mais nous on a fait les courses, on peut pas se permettre de vous rembourser. Sauf cas de force majeure, évidemment. Il y a la vie, il y a Blood Bowl, faut pas exagérer. Et puis surtout, vous prenez pas la tête. L'important c'est le convivial, c'est que les mecs aient envie de revenir, ils passent un bon moment. Et après, ce que manque maintenant, surtout, c'est de plus en plus des tournois à échelle. On va dire échelle humaine, c'est-à-dire les tournois de 30-40 personnes où tout le monde peut parler à tout le monde. Et ça donne envie de revenir plus souvent. Même si les gros tournois sont très sympas, on voit plein de monde, on n'a pas le temps de parler à tout le monde. Et...
Alors, si c'est proche de mes dates de tournoi et proche de mon tournoi, je lui conseillerais de pas le faire. Ce que je peux conseiller, c'est de bien s'entourer, c'est de pas faire les choses tout seul. C'est de demander conseil, évidemment, à ceux qui en ont déjà fait. Et de dire que ça va être un bon moment si tout est bien organisé à l'avance. C'est un tournoi, ça se fait certainement pas à l'arrache. Moi, je sais que je passe beaucoup de temps à tout organiser, tout faire pour que ce soit, pour vraiment que ce soit nickel aux petits oignons, pour que les joueurs s'amusent. D'accord. Le plus important, c'est que les joueurs s'amusent et qu'on n'y aille pas dans une optique, nous, organisateurs, on n'y va pas dans une optique de s'amuser à Blood Bowl. On y va dans une optique de passer un bon week-end, mais faire en sorte que les gens qui viennent passe un bon week-end de Blood Bowl.
Un bien beau message hein, pour finir. Donc, ils ne sont pas là pour s'amuser, mais ils sont là pour vous amuser.
Mais en fait, c'est ce que disait Pierre, c'est que le principe, quand tu viens organiser un tournoi, ton plaisir, c'est que ça se passe bien et tout le monde prenne du plaisir. Ça, en fait. C'est ça ton plaisir.
Organiser le tournoi, c'est un kiff, comme il dit Pierre. Ouais.
C'est que les gens se disent, oh putain, la bouffe, c'était trop top. Ah, putain, c'était trop top, on avait tous les potes, on a eu des super goodies, machin. Enfin, on s'est bien éclaté, les matchs étaient terribles. Bon, après, on n'est pas responsable.
Il y a plein de messages positifs hein, dans ce que tu dis, Nat, et intéressant, moi, je trouve. Déjà, le fait de ne pas partir tout seul, c'est hyper important, en fait, d'avoir une équipe d'organisation en amont. C'est ce qui va te permettre, en fait, d'avoir une émulation positive, une motivation de groupe, en fait. Et ça, c'est hyper intéressant. Quand tu fais tout seul le truc, tu vas moins t'amuser, c'est sûr, et tu vas moins prendre de plaisir à l'organisation, et du coup, tu vas peut-être faire les choses un peu moins bien. Donc, être en groupe, c'est toujours un plus. Après, je dirais, pour les nouveaux organisateurs, ceux qui veulent organiser un tournoi pour la première fois, prenez votre temps, prévoyez un truc pas trop ambitieux pour commencer, mettez en place des jalons, puis d'organisation. De toute façon, tout le monde, tous les orgas, ils ont eu des petites emmerdes tout le temps, pendant l'organisation, pendant le tournoi. Après, il n'y a rien d'insurmontable en général.
Et surtout vous dire que même s'il y a eu une emmerde pendant le tournoi, bah, c'est pas grave, les gens vous jugeront pas, quoi. Parce qu'il y a toujours cette impression de décevoir les gens qui peut être présente chez les nouveaux organisateurs de tournois.
Oh, même chez les anciens. T'inquiète pas.
Ouais, moi, si j'ai un conseil aussi à donner, c'est si vous êtes nouvel organisateur, il faut aussi aller voir ce qui se passe chez les autres, voir comment ça se passe, rencontrer les gens. Les gens viendront pas vous voir, viendront pas à votre tournoi si vous connaissent pas. Enfin, il y aura peut-être 3-4 pèlerins, mais...
Quand tu parles d'aller au tournoi pour voir ce qui s'y fait, il n'y a pas que même pour voir les gens. Je sais que le Lutèce Bowl, nous, on va dire qu'on a, je sais pas, dire qu'on, enfin, on a vampirisé d'une certaine manière, c'est qu'on a été voir... On faisait plein de tournois à cette époque-là. Moi, j'en fais peut-être un peu moins maintenant, mais on a pris des idées en Angleterre, dans tous les autres tournois, en disant ça c'est vraiment super, on a envie de le faire. Ça, on l'a mis à notre sauce après, mais s'inspirer des autres pour essayer de tordre un peu le truc et se l'approprier pour en faire quelque chose d'intéressant.
Tu vois que le Blood Bowl Tournament, ils ont repris les trucs du Lutèce.
Mais très bien, c'est le but, c'est que, de toute façon, s'il y a des bonnes idées, il faut qu'elles soient reprises partout. Nous, par exemple, le fait de mettre des terrains sur toutes les tables, c'est un truc, je me souviens, avec Slade, on est arrivé, je sais plus s'il était là, mais on s'en avait parlé, on est arrivé au Warhammer World, et on voyait tous les terrains de Blood Bowl partout, et t'es là, tu fais, waouh! Ça claque quoi. Et tu te dis putain, j'ai envie de faire ça quoi. Et je me souviens que Slade, c'est son truc, il voulait absolument qu'on les gens arrivent, on ait tous les terrains et ouais, on l'a fait. Et d'un coup, on l'a fait avec nos terrains, on l'a pas fait avec les terrains parce que eux, ils avaient fait ça, évidemment, ouais. C'était Games Workshop, ouais. Alors Games Workshop, ils avaient tous leurs terrains de Blood Bowl les originaux. Nous, on a pu poser nos logos en fait avec nos terrains partout. Et c'est vrai que c'est une des analyses qu'on avait sur les tournois, c'est que il y avait pas souvent les lieux ont pas de personnalité. En fait, ils ont pas la personnalité du tournoi. On est souvent dans des salles des fêtes, des trucs de mariage qui sont un peu impersonnels, qui peuvent être charmants, hein, on dit pas le contraire, mais qui sont souvent impersonnels. Et mettre une déco comme ça, par exemple, tous les terrains de ton club, les bannières comme on fait au Lutèce Bowl, ou même ce qu'on faisait quand on a eu plein de cartons d'équipes, les mettre toutes dans la cuisine avec toutes les anciennes équipes qui ont participé au Lutèce Bowl, et qui sont parvenues ou qui ont gagné ou machin, ou qui, voilà. Ça fait de la déco, ça fait un genre d'histoire, ça
rappelle l'identité, wow. En fait. Voilà.
Non, mais ça fait une vraie image, ça fait un lieu, quoi, qui appartient au tournoi, et qui a de l'identité, quoi.
Et puis outre ça, le fait de se déplacer, d'aller voir ce qui se fait ailleurs, finalement, c'est ce qui te fait en fait choisir des directions pour organiser ton propre tournoi. Moi, je sais que Lutèce Bowl au début, c'était un tournoi individuel, c'était un tournoi qui se passait le samedi, le soir.
Et c'est l'exemple anglais qui t'a donné vraiment envie de faire un tournoi pareil.
Voilà, c'est enfin pas que moi. Hein, c'est quand on en a parlé avec Slade, avec les gens de l'époque, on s'est dit voilà, c'est quoi les plus beaux tournois, les meilleurs moments de Blood Bowl qu'on a vécu dans nos vies, c'était les tournois où on était sur le lieu même du tournoi du début jusqu'à la fin. Où on se biturait ensemble le soir avec les équipes adverses, notamment à l'Euro Bowl 2005, où c'était juste pour moi le meilleur souvenir de Blood Bowl que j'ai de toute ma vie quasiment, quoi. Et du coup, on s'est dit, on veut reproduire ce schéma-là. Et c'est pour ça qu'on a choisi du coup des axes d'organisation différents. On a dit, voilà, on veut faire un tournoi all-inclusive où les gens ils vont manger sur place, donc il faut qu'on prévoie la bouffe, où les gens ils vont dormir sur place, donc il faut qu'on prévoie de la place, ou des carrés de pelouse pour mettre des tentes et tout. Et voilà, bah, c'est aussi ce qui fait l'histoire du Lutèce Bowl, en tout cas. C'est les choix qu'on a organisés, qu'on a choisis.
Bud Mika, peut-être quelques conseils aussi.
T'as participé à l'orga du Lutèce Bowl, toi?
Non, j'ai pas fait.
Mais l'an prochain, oui.
Mais l'an prochain, il a promis.
Ah, j'ai prévu. Ouais, c'est ça.
Il enchaînait.
C'est ça.
On n'a pas parlé non plus aussi du logiciel à utiliser pour.
Ben Mika, il allait parler.
Ouais, attends.
Ah, pardon. Je croyais qu'il avait fini.
Mais on parlera du logiciel après.
Mais tu pourras le mettre dans tes recommandations.
Ça y est, le gars, il était entraîneur de l'équipe de France.
J'ai pas plus à. Pas beaucoup plus à apporter, mais c'est vrai que nous, on n'a pas des. Bah, comme je disais, c'est pas la même influence. Après, tout ce qui est orga, jeu de cartes, ça reste un peu à. Je vais pas dire à l'improviste, mais ça reste. Voilà, tu rends des scores, tu tiens le tout, donc c'est. Ça reste à la portée de beaucoup. Donc les gens, souvent, ils organisent sans trop de crainte, sans trop de. Voilà, quoi. Donc,
sans trop d'a priori.
Ouais, sans trop d'a priori. Puis comme ça reste assez local, bah, les gens viennent quand même, c'est bien, quoi. C'est. On a moins ce problème de gens ont des craintes ou quoi. C'est différent, c'est un autre. Notre univers.
Et donc, Bud, puisque tu voulais ouvrir ta grande bouche à propos de l'histoire de logiciel.
C'est plus parce que. Plus parce que moi, je rentre les scores sur le site et que du coup, je vous engage, quand vous êtes organisateur de tournoi, à prendre des logiciels qui donnent des fichiers directement au RTC. C'est un gain de temps incroyable.
Oui. Et toi, ça se trouve où ça?
Bah, il y a plusieurs logiciels. Il y a celui de Bojo qui s'appelle Tourma, qui est disponible sur le site de l'équipe de France.
On mettra les liens, je pense, dans les posts du podcast.
Il y a Score qui est disponible sur le site de la NAF.
Enculé.
Et puis après, je sais que le Lutèce Bowl, ils utilisent leur propre logiciel.
Parce que ça va générer des fichiers qui seront
ça
directement exploitables.
Ça génère un fichier que moi je peux exporter directement.
Mais moi, je te dis,
ah, mais en fait, tu dis juste
un
ça
jour,
pour.
J'organiserai un tournoi pas NAF avec que des rosters qui
eh
existent
bah, très
pas.
Bien,
s'il et tu n'auras pas à rentrer à la NAF.
S'il est pas NAF, parfait.
Et t'auras pas le droit de venir.
Peut-être si, mais tu n'auras pas le droit de rentrer quoi que ce soit dans le site de la NAF parce que ça sera pas possible.
Sachant, moi je sais que au début de la NAF, quand j'étais RTC moi-même, il fallait que je rentre tous les résultats de tous les matchs un par un. C'était bien chiant ça.
T'imagines quand t'as 180 joueurs au Lutèce Bowl et
j'ai pas envie d'imaginer. Déjà, 90, c'était énorme.
Ça fait 1000 matchs à rentrer. C'est juste 3 jours de boulot, quoi.
Non.
C'est du boulot, finalement, ce genre de choses.
Ah,
hein.
Oui.
Attends,
ouais.
7 euros
le
par
fichier
an,
XML, c'est une bonne plus-value pour les RTC9.
C'est tout.
Eh bien, c'était pas mal. Merci, messieurs. On va pouvoir passer sans transition à la rubrique suivante, la rubrique internationale du podcast de la Lutèce.
Donc, qui c'est qu'on écoute cette fois-ci?
Alors, cette année.
Après les Écossais.
Cette fois-ci, nous allons écouter notre ami Omak.
Oui, bravo!
Non, mais faut savoir que le seul élément que j'avais, c'est quand il m'avait donné son nom, il m'avait dit je m'appelle Omak. Okay. Et forcément, j'étais induit en erreur. Donc, Omak, qui c'est? C'est donc un joueur espagnol. Il joue à Blood Bowl depuis.
C'est Omak Karif.
Il joue à Blood Bowl depuis 2008. Je parle sous le contrôle de Bugs en disant qu'il est, ou au moins a été membre de l'équipe d'Espagne à l'Euro Bowl.
Non, pas du tout.
Pas du tout, d'accord.
Donc, Omak est frec.
J'en sais rien, je m'en rappelle plus.
En tout cas, un membre. En tout cas, un membre assez.
Non, assez... il était pas équipe de France. Et il était pas équipe d'Espagne.
Il a jamais été équipe d'Espagne, d'accord. En tout cas, c'était un des leaders de l'équipe présente au UK Team Challenge. Là où
c'est un des leaders de l'équipe du Blood Bowl espagnol.
Oui, voilà, c'est un membre relativement incontournable, un gars qui se déplace beaucoup. Et pour commencer, donc j'ai voulu en savoir un petit peu plus sur l'étendue de cette communauté espagnole. J'étais un peu surpris, mais je pense que je serais peut-être le seul autour de cette table d'apprendre que la communauté espagnole était quand même assez fournie. Nous l'écoutons.
Sur Barcelone, on a ce qu'on a appelé le trèfle, un championnat. Sur, on va dire, la Catalogne, plus centré sur Barcelone que sur la Catalogne. Et là, on a à peu près un tournoi par mois. Tous ne comptent pas pour le classement final, mais la moitié ou un petit peu plus. Et sur l'Espagne, c'est vrai qu'on est aussi assez bien servi. Je veux dire, sur Madrid, il y a une très forte communauté qui joue assez régulièrement aussi. Ils ont créé un tournoi, un championnat similaire à celui de la Catalogne sur 7 tournois. Ensuite, sur Valence, il y avait une bonne communauté aussi. Je crois qu'elle s'est un petit peu diluée, mais quand même, il y a des poids très forts là-dessus. Ensuite, c'est Bilbao, le Nord, qui a une autre communauté. Le Sud, ils sont pas aussi nombreux, mais ça existe aussi. Bah, la communauté espagnole, évidemment, est très chaleureuse, surtout entre eux. Ils aiment bien voyager. C'est-à-dire que s'il y en a un qui est en train de perdre ou de gagner, bah, il reçoit le soutien de son équipe. On aime bien jouer, Sylvain, Dead... Il y a des très bons joueurs pro-elf. Surtout, il y a des joueurs qui savent jouer plusieurs races. Donc, tu sais jamais vraiment à quoi t'attendre. Parce qu'ils savent très bien jouer n'importe quelle race.
C'est incroyable. Il parle quand même super bien français, ce gars-là. Ouais.
Tout à fait.
Et il est franco-espagnol.
Le tricheur, quoi.
Ouais, franchement.
Mais
moi,
je trouve que ça aurait été intéressant qu'il nous explique comment était justement organisée l'équipe d'Espagne qui est présente à
l'Euro. Ce sera le prochain bout d'interview. Il y a 3 bouts d'interview.
C'est magnifique. Oui, tu réponds à toutes mes attentes.
Exact.
Damien, est-ce que tu veux te marier avec moi?
Non. je veux bien être ton
compagnon
secret.
Encore une bouteille, ça marche.
Mais donc oui, une communauté espagnole que l'on a pu croiser effectivement à des tournois du sud. Je pense notamment au tournoi des As, où la seule fois où j'y suis allé, il y avait 2 équipes d'Espagnols qui avaient la particularité de s'encourager les uns les autres à l'aide d'un mégaphone.
Donc vache quoi.
Ah ouais,
moi j'ai entendu parler.
Uno o dos, uno o dos.
Matale, matale.
La pénétration.
Moi j'ai entendu parler d'un tournoi en Espagne où quelques Français avaient participé, je crois notamment Gerson, où
il était revenu sourd.
Il y a un mec, il avait un ghetto blaster et il passait la musique des Chevaliers du Zodiac quand il marquait un touchdown, un truc comme ça, à fond. Ça devait être assez
Et puis ils hurlent tous quoi. Ils hurlent comme des chacals quoi.
Ils produisent du son.
Mais en fait quand tu ce qui est marrant à Blood Bowl déjà, c'est que les différentes nationalités joue pas de la même manière. Mm-hmm. C'est le même jeu, mais on joue pas de la même manière. Mm-hmm. Et ensuite, moi j'ai discuté avec un Italien qui disait par exemple, en gros, quand les Italiens ils vont en France, ils font attention parce qu'ils ont l'habitude de beaucoup insulter leurs adversaires. C'est naturel en Italie.
Je confirme.
Mais en France,
c'est
très mal pris.
je confirme m'être fait copieusement insulter par un Italien que j'avais chaté comme un gros dégueulasse pendant un tournoi en Allemagne.
Enfin, je sais qu'il y a des coutumes un peu différentes selon les nationalités.
J'ai eu des vavans de coulo pour toute une vie.
Il s'excuse pas après le match, non.
Bien sûr, non, mais c'était dit avec gentillesse. Hein.
Ok, bah oui. Alors pourquoi tu plains?
Non, mais déjà, lui, il parle. Il y en a qui t'écoutent de la musique pendant le match.
J'ai vu que les Espagnols faire ça, moi, pour le coup. Se mettre un Walkman, là. C'est comme au joueur de poker, presque, tu vois, la casquette, les lunettes noires, et...
Ah, c'est...
Mais
je suis pas là pour jouer.
Que, qu'un des Italiens qu'on voit le plus souvent en tournoi, c'est quand même Spartaco, qui est un des mecs les plus gentils qui soit de la création. Quoi.
Non, mais on parle pas de l'Italie, on parle de l'Espagne.
Avant que
revenons à nos moutons.
Ma tête est déjà l'Italie,
limitrophe ou presque.
Carucci est espagnol. C'est même un. Lui, pour le coup, c'est un membre de l'équipe d'Espagne. Là, pour le coup, j'en suis sûr, j'ai vu son nom sur le site de l'équipe espagnole. Enfin, lui, c'est l'archétype du joueur espagnol, tu sais, avec énormément de gentillesse, mais avec en même temps une grosse présence quand il joue. Pour revenir un petit peu à l'équipe d'Espagne, donc l'Eurobowl, si je dis pas de bêtises, ils ont fait quatrième à la dernière, au dernier Eurobowl.
Troisième
même.
Il me semble bien. Hein. Il me semble qu'ils étaient.
Mais alors, justement, comment est-ce qu'ils sont un petit peu ces joueurs espagnols? Donc troisième, c'est quoi? C'était un accident ou est-ce que vraiment c'est des bons joueurs?
Non. Franchement, l'équipe espagnole qu'ils avaient là cette année, ils méritaient largement leur troisième place. On les a vus. Donc c'était à peu près les mêmes joueurs qui étaient là au Lutes Bowl l'année dernière. Ils ont fait podium aussi, je crois.
Mmh, tout à fait.
Ils ont fait premier au UK Challenge ex aequo avec notre équipe. Cette année,
ils sont arrivés premiers, mais dans la tête d'Azroag, ils sont premiers.
Oui, c'est ça. non, c'est vraiment un. Enfin, en tout cas, ceux qui se déplacent là, les quatre zozos qu'on voit un petit peu partout en Europe, c'est des très très bons joueurs. Et ils méritent largement leur place sur le podium de l'Eurobowl.
Après, historiquement, l'équipe d'Espagne était une équipe assez forte au début des Eurobowl en 2003, 2004, 2005. Je pense qu'ils ont même dû gagner en 2006 puisque l'Eurobowl 2008 s'est organisé à Barcelone. Donc il y a eu les Coupes du Monde entre les deux. C'est vrai que ces derniers temps, peut-être qu'ils étaient un peu moins forts. Ils se sont fait dépasser par les Italiens, les Anglais notamment et les Danois. Mais ils sont toujours, pour moi, ils sont pas loin non plus. Quoi.
Et au niveau de l'organisation de leur équipe, vous allez le voir, ils ont cette particularité, en tout cas lors du dernier Eurobowl, c'est d'être une équipe bicéphale.
Là, cette dernière année, pour la sélection de l'équipe, nous avons fait pour la première fois une élection de capitaine qui a donné comme résultat un ex aequo. Donc l'équipe de cette année a été créée en co-capitaine et chaque capitaine choisissait trois joueurs.
Petite particularité, alors il n'est pas dit qu'au prochain Eurobowl, ils seront pas de nouveau à la normale, mais... on a fait un ex-aequo. Bon, c'est ok, on va prendre deux capitaines, y a pas de souci. Hein.
Mais est-ce qu'il y a pas eu d'impact sur l'esprit d'équipe? Parce qu'admettons, s'il y avait un capitaine madrilène, un capitaine catalan.
J'ai pas l'impression, vu leur résultat.
Mais peut-être qu'au contraire, d'avoir deux capitaines, ça a permis d'avoir deux visions différentes. Peut-être que c'est intéressant d'ailleurs. Hein. Mm-hmm. Non mais.
Pourquoi pas, quoi?
Ouais, on devrait y songer, hein.
Et pourquoi pas 8 capitaines?
Genre tous les membres de l'équipe sont capitaines.
Là, ce serait une équipe typiquement française.
Moi, je veux 8 sélectionneurs qui choisissent chacun un joueur.
Pour l'année d'après.
Et chacun prend le même roster. Et on repart à zéro.
Et pendant le tournoi, le sélectionneur prend son joueur et lui mâche ses épaules.
On plaisante, mais deux capitaines, ça peut être deux voies de référence dans le jeu, en fait, mm-hmm. qui ont peut-être des stratégies, des approches différentes et qui peuvent donner quelque chose d'intéressant. Hein, pourquoi pas, quoi?
Je n'ai qu'un mot à dire. Bullshit.
Alors l'un de vous a lâché le mot, s'il y avait un catalan et un madrilien, comment ça se passe? Alors bon, l'actualité récente nous l'a montré, il y a quand même un fort régionalisme hein, au sein de l'Espagne. Du coup, la question que je lui ai posée, c'est comment est-ce que ça se ressent au niveau de la communauté de Blood Bowl?
Je pense pas que ça soit une compétition entre régions, bien que quand on se retrouve, on sait qui c'est les basques, on sait qui c'est les madrilènes et les catalans. C'est plutôt un fait de jouer avec tes copains, quoi. Les gens à qui tu joues une ligue ou ça. En Espagne, on voyage pas trop depuis les dernières années, depuis la crise, on va dire ça comme ça, parce que ça coûte cher, faut arriver à un hôtel, faut tout ça quoi. Donc les gens jouent vraiment dans leur communauté autonome et finalement ça crée un groupe là-dedans. Il y a que ceux qui ont voyagé ou qui continuent à voyager un petit peu qui peuvent arriver à faire une équipe, on va dire, mixte entre communautés.
Et c'est d'ailleurs ce côté, je joue avec mes potes, avec les potes de la Ligue, qui fait que lorsque je lui ai demandé si l'équipe de l'Eurobowl allait se réunir pour la Coupe du Monde et tenter de la remporter, il m'a dit non, chacun est venu avec ses potes de Ligue, avec ses les gars avec qui il joue toute l'année.
Moi je voudrais pas dire, mais quand même c'est un magnifique exercice de langue de bois, parce qu'il a juste pas répondu à la question, si la question était comment vous faites entre madrilène et catalan, parce que là il a dit ça se produit pas.
ce qui est une réponse.
Oui,
qui ça? Je connais pas, non, je vois pas.
Il,
Parce que le truc de si on va en Catalogne, on se fait démonter la gueule, mais pas que sur le terrain. Là, on aurait il y a un truc où oh, sinon ils auraient été super sympas avec nous.
C'est à cause de la crise tout ça.
C'est on voyage, on gueule, voyage pas trop.
Voilà. Ouais, belle esquive quoi, magnifique. Voilà. À l'espagnol.
Mais après, c'est vrai qu'il y a, enfin, cette question se pose pour l'Espagne, enfin, entre les Madrilènes et les Catalans, elle peut se poser aussi, je pense, pour les Belges. Je sais pas s'il y a beaucoup de joueurs wallons. Je sais que la majorité de la communauté belge est plutôt flamande pour moi, mais enfin, je pense que ça peut créer des tensions, en tout cas, dans la communauté. Et du coup, nous, on a pas ce malheur, en tout cas, en France, et je pense que c'est quand même plutôt bien, quoi.
C'est parce qu'on n'a pas de joueurs corse.
Et puis, on n'a pas de Marseillais aussi, je crois. Hein.
Mais aussi, il y a les Marseillais.
J'en ai pas vu.
Il y a des gens très bien à Marseille.
J'ai jamais dit qu'il n'y avait pas des gens.
Je veux rebondir sur un truc auquel ça m'a fait penser là pendant cette discussion. C'est, je me disais en fait, on parle toujours du fort antagonisme entre les Français et les Anglais. Et je trouve que
de compétition, tu veux dire.
De la guerre de 100 ans,
au niveau national,
qu'on est content quand l'équipe de rugby bat les Anglais parce qu'on leur a bien mis. Non, mais je trouve que au contraire, moi, quand je me déplace en Angleterre et quand les Anglais les déplacent en France, enfin, c'est vraiment hyper amical et il y a aucune sorte de tension que ce soit. Quoi,
après, je vais élargir un tout petit peu le débat là, mais pour ce truc là, mais les peuples, ils s'entendent très bien. Hein. C'est les dirigeants qui ont des visions bizarres du monde et qui font n'importe quoi. Entre les Anglais, on les adore, ils nous adorent et peut-être ils ont des critiques sur certaines choses et nous sur certaines choses, mais c'est juste, ça reste très amical et sympathique quoi. Et d'ailleurs, moi j'adore les Anglais en match pour leur flegme incroyable.
Leur sérénité.
Et leur humour très très étrange mais que j'adore j'adore quoi. Je me souviens encore de cet exemple je sais plus comment il s'appelle, un joueur qui jouait vampire, voilà, qui jouait vampire, et là la balle tombe sur mon troll et il fait this game is gonna be interesting. cette partie va être très intéressante.
ton troll avait esquivé en force.
Non mais avec des vampires, le pire truc qui puisse t'arriver, je pense que c'est un gars qui a 5 de force qui chope la balle. Enfin voilà, et ça effectivement c'était une partie assez d'anthologie.
Je pense que tu nous avais déjà casé cette anecdote dans un précédent.
Ah peut-être, alors ce sera qu'une répétition.
L'épisode du podcast.
Mais là c'était le.
Si vous avez raté l'épisode précédent.
Et je pense
le
que c'était pas
idée. De Stéphane.
Tout ça pour dire que Blood Bowl, c'est donc des joueurs sur le terrain qui se connaissent pas et qui s'entretuent pour le compte de coachs qui se connaissent mais qui ne s'entretuent pas.
Exactement.
Et d'ailleurs, je sens que c'est là-dessus que nous allons terminer cette rubrique et que je vais céder la parole à Bucks, ici présent, qui va nous faire vibrer, qui va nous faire rêver avec
les notes de pierre.
Le calendrier est en main.
Alors moi, je vais vous dire un truc, je suis extrêmement déçu.
Par les organisateurs du Nabo, ou nous aussi.
Par les organisateurs tout court, parce que... Chaque fois, j'arrive, je regarde un peu les tournois, je me dis bon, qu'est-ce qui se passe.
Ouais, t'aimes bien, ils font le boulot
à
ta place.
Et quoi. À chaque fois, je tombe sur des tournois avec des petites règles un peu incroyables, rigolotes. Et là, du coup, bon, j'ai regardé un petit peu cette dernière semaine pour savoir de quoi j'allais parler. Et en fait, tous les tournois qui arrivent, en gros, c'est du 110 plus 5. C'est
chiant quoi.
C'est trois tiers à la limite.
J'ai trouvé des petits trucs sympas quand même à dire.
Ouais, donc voilà, j'étais quand même un peu déçu. Donc bon, on va quand même pouvoir en parler. Bon, ça va être compliqué parce que le doc m'a piqué mes lunettes et du coup, je peux plus lire ce qui a marqué sur ma feuille.
Fais gaffe pas la glisser dans ton piercing hein.
Alors. Donc bon, on va passer le prochain tournoi très rapidement
tournoi de province
parce que de toute façon le temps que le doc monte l'épisode ce sera déjà terminé donc
ce sera fait avant quand même.
Donc la World Cup
ce petit tournoi de campagne
tournoi dans la province du Pau.
Non loin de la Tour de Pise
en Italie machin, je pense que a priori tout le monde est au courant. Donc on va passer rapidement au suivant. Donc petit tournoi qui démarre, qui débute, un nouvel orga puisque ça tombe bien, on en a parlé à peu près pendant trois quarts de l'épisode. Donc voilà, c'est Crunch, nouvel orga que je ne connais pas personnellement mais avec qui j'ai communiqué pas mal par MP récemment parce qu'il voulait que son tournoi soit naf. Donc voilà, je lui ai un peu expliqué comment ça marchait. Donc le nom du tournoi c'est l'Open Bash, ça se passe le 15 novembre, c'est juste une journée en 3 rondes, il fait un système de tiers donc en TV 105, 115 En 3 tiers. Premier tiers, 4 simples, 1 double. Deuxième tiers, 4 simples, 2 doubles. Troisième tiers, ATV 120, 4 simples, 2 doubles. Donc voilà, pour moi, ça reste du très classique.
Oui, classique. Mais c'est où ce petit tournoi?
Ça se passe à Saint-Pierre-du-Perret, en Essonne.
Dans la région
parisienne.
Bon, il devrait y avoir quelques Parisiens qui vont y aller.
C'est 5 euros.
Non, mais j'y vais normalement.
Quoi, bonne nickel, tu veux le faire.
Ça se passe donc du coup une semaine après la World Cup. Donc,
ah ouais, c'est une semaine après la World Cup.
Sur deux jours? Sur une journée?
Sur une journée.
Une journée.
C'est pour les mecs qui ont pas assez joué pendant la World Cup.
C'est pour ceux qui n'ont pas pu aller en Italie, vous pouvez aller
ou ceux qui se disent,
à Saint-Pierre-du-Perret.
9 matchs, c'est pas assez, rajoute une journée de plus.
9 matchs en 3 jours, en y repensant, c'est nul. Franchement, les tournois 24 heures, tu fais ça en 22 heures.
C'est vrai. Donc voilà, c'est 5 euros et...
Non mais c'est vrai, je vais poursuivre sur la pensée, mais c'est vrai, ils auraient pu faire un tournoi de 72 heures, quoi.
Exactement. 27 matchs.
3 jours, nuit et jour, sans dormir avec des soupes à l'oignon et tout ça, à la totale, quoi.
Binôme interdit.
Après, on te montre un dé à 6 faces, tu vomis.
Les vainqueurs, c'est ceux qui arrivent à dormir.
Excuse-moi de t'avoir interrompu,
Doc.
C'est une digression sauvage.
Voilà, donc ça, c'est l'Open Bash. Ensuite, on a deux tournois fin novembre. Donc les deux tournois.
Le Nabo.
Non.
On ne sait pas.
Ça, ce sera la surprise. On verra, on verra. S'il y a possibilité, s'il y a une éventuelle possibilité que le championnat de France soit un petit peu, comment dit-on,
disputé.
Ça en prend peut-être
le chemin,
d'ailleurs,
que... ou pas? Je t'avais demandé de jeter un œil.
Ouais, je pense qu'il n'y a plus de suspense depuis mars, à mon avis.
Ah, d'accord.
C'est un truc comme ça.
En gros, c'est à peu près ça. Ouais. Donc voilà, donc, ces deux tournois-là, c'est le 28 et 29 novembre. On a le Dragon Ball du côté de Nantes à Orvault et l'Impact. L'Impact, c'est où déjà?
Bah, c'est dans l'Ain.
Bah, dans l'Ain.
C'est dans l'Ain.
Dans le Pacte.
Bourg-en-Bresse,
la ville.
C'est pas Bourg-en-Bresse, justement?
Je sais plus. Bref, c'est dans l'Ain, quoi. C'est, ça,
ils ont l'air bien, les
toujours
au
même endroit. Non, non, mais il m'a juste noté les noms des tournois et les dates. Alors,
il s'est pas fait chier.
Après, il faut que je me rappelle de tout ce que j'ai lu.
Contrairement à ce que tu dis, justement, en parlant du Dragon Ball, il est quand même pas très classique, ce tournoi, je trouve.
Alors, parlons-en. Donc, moi, je trouve ça assez classique. Il y a la petite touche fun, effectivement. Donc, on va déjà parler des règles. C'est donc par équipe de 3, 5 matchs, donc 3 le samedi, 2 le dimanche. Donc, jusque-là, classique.
C'est très classique, ça.
Ouais.
Un truc qui est moins classique, c'est que tu joues 3 fois ton équipe et tu joues une fois l'équipe de chacun de tes coéquipiers.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai que
c'est quand même assez.
Bon, on l'a déjà vu hein, quand même un petit peu. Mais...
Bah, ils ont
en
fait
gros,
la même chose
tu joues, tu joues 3 fois ton roster et tu joues une fois le roster.
C'est-à-dire que c'est les bons joueurs qui sont généralistes et qui, toi, ça amène les équipes à faire des choix d'équipe.
J'avais pas noté cette subtilité.
Et je trouve que c'est quand même sympa.
Effectivement, donc après c'est du TV 115 avec un inducement obligatoire.
On dirait presque les règles du Tesball.
Ça commence à devenir un petit peu du classique, hein, j'ai envie de dire ça. Mais
on
ça
a commence fait
à... En tout cas, ça plaît. Ça plaît parce qu'on commence à le voir un peu avant.
Donc en même temps, le classique 5 combes dans un double et le classique avec les champions inclus dans le truc, c'est-à-dire ça fait pas du tout le même classique.
Oui, certes. Non mais ce que je veux dire c'est
dans
que
dans la simplicité du 4+1 alors que 4+1 avec des champions d'un coup t'arrives, tu peux avoir n'importe quoi sur le terrain.
Ouais. Donc, non, bien sûr.
Classique 5+1 même on le voit plus jamais maintenant. Maintenant c'est soit système
c'est presque
de tiers.
Dommage. Moi je suis presque nostalgique des fois. Moi qui ai envie de jouer Sylvain de temps en temps, tu veux dire, oh la vache, il n'y a pas de 5+1.
Au Nabo, ce sera 4 simples 1 double, point barre. Promis.
Le Nabo, il sera en ligne cette année, sur Cyanide.
Non, coup, en tout cas, moi, ce qui me plaît beaucoup au Dragon Ball, c'est qu'ils font un hymne de l'équipe qu'il faut que tu envoies avant et en gros si t'es sur le podium tu as ton hymne qui est
et je crois à la fin à la fin de chaque ronde ils prennent la première équipe qui est première au classement et ils balancent son hymne. Donc je crois que l'an dernier c'était les Two and Dash Lords et leur hymne c'était la Macarena. Donc ils ont eu droit à la Macarena.
J'imagine qu'on a droit à la queue leu-leu, à les trucs comme ça quoi, enfin les trucs bien sauvages,
la danse des canards.
Moi je trouve ça marrant.
Voilà, donc ça donne l'ambiance, quoi, en tout cas.
D'accord.
Donc ça, c'est Dragon Ball. 8e édition, quand même. L'Impact. Donc c'est où, déjà, on a dit? Donc, dans le tournoi zéro. Individuel, dans le pour le coup, 40 euros et ce sera sur 5 rondes avec un système de tiers. Tiers 1, 4 simples, 1 double. Tiers 2, alors tiers 1, 110, TV 110, 4 simples, 1 double. Tiers 2, TV 115, 5 simples, 1 double. Tiers 3, TV 120, 5 simples, non, 5 doubles. Le 5. Chef pour les Alphes, les pots de vin pour les gobes, les champions autorisés.
La possibilité d'acheter le chef et les pots de vin et des champions.
Voilà, donc ces deux-là, c'est les, a priori, en tout cas à l'heure d'aujourd'hui, les deux tournois qui clôtureront le championnat de France. Ouh. Donc je ne sais pas lequel des deux aura l'honneur,
à distance, marrant, ça.
Aura l'honneur de remettre le trophée à Arty. Pardon, on ne sait pas encore. Donc voilà, donc bon... On va donc, je vais faire vite fait un petit point sur le championnat de France, histoire de clôturer l'année. Donc a priori, sans grande surprise,
pour la clôturer en octobre.
Sans grande surprise, Arty devrait a priori remporter pour la troisième année consécutive ce championnat.
Le prix Titouche de France est devenu le prix Arty de France.
Écoute, Titouche l'a gagné trois fois. Arty est déjà à deux et devrait a priori remporter sa troisième édition. Hein. On verra bien si...
C'est encore si... Bibi de second ou pas ?
Alors je vais vous dire, actuellement dans les 10 premiers, on a Arty premier, qui est facile 30 ou 40 points au-dessus de Carac. Donc c'est pour Carac, en gros, il faut qu'il gagne deux tournois pour vraiment pouvoir...
Et que Arty se casse une cheville.
Voilà. Ensuite, c'est un petit peu plus serré dans la queue du peloton, mais Arty est bien devant. Donc deuxième Carac, troisième Justicium. Ensuite viennent Simon, Shogun, Sebotuno, Matt Lefou, Zaiko, Gronin, SSB.
What,
SSB,
SSB
dixième.
Comment ça,
qu'est-ce que j'ai branlé, rien du tout cette année.
Et ça, c'est tous des gens qui ont fait a priori plus de 4 tournois ou plus. Championnat de France cette année. Et donc vient un petit peu plus loin le petit Bibi qui a fait que 3 tournois.
Il a un super score. Bibi,
mais qui a un super score et pour peu qu'il gagne un tournoi encore, il serait possible
il va remonter
qu'il
en flèche,
soit
sur le podium.
Ah oui,
en tout cas sur le podium, c'est sûr. Qu'il réussisse à égaler ou dépasser Arty, ça risque d'être un peu compliqué.
Parce qu'il faudrait qu'il y ait, que ce soit des gros tournois, en fait, pour qu'il y ait...
faudrait que ce soit un gros tournoi, c'est ça.
Donc il y a peut-être un semblant de suspense.
Mais en tout cas, un podium.
Bibi habitant en Savoie, il faut tout ce que vous alliez jouer à l'impact.
Allez
du
tous
coup,
à l'impact.
Pour les Nantais, il faut bien un sacrifice, quoi. Donc allez tout le monde à l'impact, faire un tournoi de 100 joueurs là-bas pour que Bibi le gagne. Tout le monde se couche devant lui, bien sûr. Hein. pour la sportivité.
Allez.
Mais non.
Cela dit, Bibi, il a déjà gagné le championnat de France une fois.
Non, mais enfin, juste pour revenir sur Arty, il a quand même eu des excellents résultats et dans la continuité, enfin, il est vraiment très très régulier. Quel que soit le ressort qu'il joue,
je trouve
que.
Il a gagné un tournoi.
Je trouve que cet homme est une légende.
Il a battu en chatant comme un porc.
Ah, c'était la déche, ça, non.
C'est une légende, c'est cet homme-là.
Moi, j'étais là pour voir ça.
Et en plus, j'ai partagé pas mal de moments avec lui, puisqu'on est allé à un tournoi ensemble à Lyon, donc on a fait tout le trajet ensemble. Et en plus, il est super gentil.
Oh, il est adorable, Arty, pas de soucis.
Alors bon.
Mais putain, quel chatard!
Eh bien, merci Bux, était-ce tout?
Bah, attends, il y a encore un petit peu écrit là sur le papier de Pierre. Donc,
je crois que c'est la liste des courses.
Hein.
Ah, alors.
Thomas, trois boîtes de deux.
Non, on va parler de janvier parce qu'il n'y a rien en décembre, donc on va quand même.
Non,
parler
mais
un
si,
peu
en décembre, peut-être qu'il va y avoir un truc finalement, non?
On verra. Si Bibi a des barbu, possibilités, hein. Peut-être qu'on. Donc janvier.
Juste pour Bibi, oh, ce serait cool ça.
Ouais, on va parler de quelques tournois internationaux quand même. Enfin, c'est les classiques auxquels on parle tout le temps, mais c'est des tournois pour lesquels souvent des Français se déplacent, donc ça vaut le coup d'en parler. C'est donc le UK Team Challenge qui se passe le 16 et 17 janvier. 2016 pour le coup, qui sera à York.
Une délégation de 12 joueurs français de prévu. Le logement est en cours de réglage.
Et pour le coup, c'est un tournoi qui commence à. Enfin, c'était la première année l'année dernière. Cette année.
Oh, d'accord.
C'est la seconde édition, mais pour le coup, c'est un tournoi qui, un petit peu comme le Lutès Bowl, commence à drainer beaucoup de communautés, des Français, des Espagnols, des Écossais.
Mais je veux pas dire, mais je crois, j'imagine que c'est les Anglais qui sont venus au Lutès Bowl qui ont voulu faire un gros tournoi.
Absolument, absolument. Bah, c'est le seul tournoi par équipe en Angleterre.
Mais je crois que c'est le concept, ils ont adoré le concept de l'équipe qui reproduit la Coupe du Monde d'une certaine manière, mais en version locale.
Paradoxalement, alors qu'on pourrait croire que c'est plus difficile d'arriver à monter une équipe pour aller faire un tournoi, paradoxalement, je pense que ça motive plus de gens.
Ah ouais? Mais moi j'ai envie d'y aller par exemple, mais j'ai pas l'équipe.
Tant pis.
Ouais, pas grave, une année prochaine. À part désistement, quelqu'un, je me pointe, je suis là pour partir au Wicked Team Challenge s'il y a un désistement.
Ah, s'il y a des gens qui cherchent une équipe, il y a Stéphane qui...
Moi, je suis déjà le pro, c'est 5 joueurs, 4 joueurs.
4 joueurs.
Tu sais, si Stéphane, plus, moi, on est dans une cave, il y a au moins 3 personnes autour de cette table qui vont à ce tournoi, c'est très facile de cacher un corps, à mon avis.
c'est très facile de cacher un corps.
Surtout, pas le dernier arrivé, non.
Surtout dans le bordel qu'il y a dans cette cave.
En fait, il y a des souris partout ici, donc on peut vous dire que votre corps ne restera pas intacte très longtemps.
Il y a un élevage de cochons affamés dans la cave.
Et puis bon, la team baguette au-delà du nom, t'as ta place dedans, je pense.
La fille voit les pilouches, désolé. Ouais.
Janvier, toujours, on a aussi le 24 heures en Belgique, auquel on va souvent avec Gerson, en tout cas nous. 11 matchs en 24 heures.
11 c'est matchs super en 24 heures.
Ça, c'est vraiment un tournoi à la Gerson, ça.
Je pense que tu perds des bouts de cerveau qui doivent dégouliner de tes oreilles à la fin.
Il y a des gens comme Gerson, ils perdent pas de bout de cerveau. Ils continuent. Et ils disent, quoi? C'est terminé? À la fin?
On se fait un beach ball en train.
C'est où en Belgique?
C'est à Sint-Niklaas.
Ok.
C'est à OHQ? C'est OHQ ball? C'est OHQ?
C'est OHQ.
À côté de Schenstebe? Non?
Ok.
La fameuse salle de jeu, le HQ à Sint-Niklaas, ville où même quand il n'y a pas de voiture, t'attends quand même le feu pour pouvoir traverser. J'adore, je trouve ça énorme.
Bienvenue en Flandre.
Très chouette endroit. Voilà.
Très bien.
Et du coup, on parle pas du dernier tournoi là ?
Non, ils font chier. On en a déjà parlé l'année dernière.
Ah bon ?
Bon, alors allez, c'est parce que c'est eux, hein, parce qu'on a eu Kaorag. En interview, donc allez, on lui parle de son tournoi, 23-24 janvier,
Bol
des Catins.
C'est pas bien.
En fait, ce qu'il faut que tu saches, c'est que le plus de tournois, on parle, donc le plus loin on va dans le calendrier, et du coup, ça retarde d'autant plus la prochaine épisode du podcast. C'est pour ça qu'on prend un peu d'avance, quoi.
Ok, donc
parce qu'on n'est pas sûr d'enregistrer avant l'été prochain, je pense.
Ouf, ok, donc alors 2017, on a. Donc pour 2019, on a une Coupe du Monde.
C'est au Japon?
C'est ça.
Ah non, ça c'est rugby merde.
T'as le format, le format du tournoi de Kaorag ou Kaorag.
Oui, bien sûr, on va en parler. Allez, c'est à. Je vais laisser Pierre lire le nom de la ville.
Bah voilà, c'est près de Caen, donc c'est un tournoi qui se déroule le 23 et 24 janvier. Non, le nom de la ville c'est Fugrolbully. Et donc là c'est.
Non, c'est pas le nom du tournoi. C'est pas Fugrolbully. C'est
le Fugrolbully. Et donc c'est les règles sont assez classiques pour le coup effectivement.
Ah bon. Comment ça classique?
J'ai rejoint François. Donc c'est à Nancy. C'est il y a même petite.
Attends, c'est 4 tiers quand même.
Non mais.
4 tiers.
Il y a un tournoi.
C'est pas classique.
Si j'ai bien compris, il y a une liste de champions avec tous les champions un peu qu'on voit jamais sur le terrain. Et si tu prends un champion dans la liste,
genre Ludgrip ou Iparm,
t'as 50 000 de plus dans ton tel mielou. Donc tous les gens ils ont 110 de TR, mais ceux qui prennent le champion ils ont 115 pour
chaque. Allez, je vous donne la liste des champions. Si vous avez envie de jouer Barik, Tirloin, Blam, Eziason, Bertha Grospoint, Boutaïdo, Dolphar Longjambe, Fexlich, Ubris Rakart, Emerus Carpal, Igor Le Fou, Itaka Bédouin, Max Écarlate.
Éclatrate.
Max Éclatrate,
pardon. Ledvip, Fouettebras, Oreille Fine, Quetzal, Rachnak, Lame dans le dos, Sinbad, Soaren, Haute Tour, Tronçonneuse Flint, Willow Teint Rose, et bien ce tournoi est pour vous.
Voilà. Non, non, mais du coup,
du max,
ça, moi, je trouve ça vraiment intéressant parce que ça va inciter les gens à prendre justement certaines de ces stars qui, en plus,
qu'on n'a jamais essayé,
ne coûtent pas très cher. Hein. Ouais. Je pense que c'est Ediason qui le trace 60 000 ou un truc comme
mais
ça.
Mais Ediason, il est très utilisé quand même.
Max Pinson, il part aussi.
Non, mais Soren Autour, j'ai vu personne le prendre par exemple. Soren Autour,
on dirait qu'il l'a inventé, tiens.
Soren Hightower, tu vois.
Soren Hightower.
Toi, tu les connais parce que t'as fait les cartes.
Et du coup, après, effectivement, le reste des règles, c'est un système de quarts. Donc au lieu d'avoir des tiers, on a des quarts, ou avec les compétences changent selon le quart. Mais donc juste pour la petite le petit côté fun des stars, je pense que ça peut être un tournoi marrant à faire.
Voilà. Ça, moi j'aime bien ça, ce genre de truc là, j'aime bien ça.
C'est qu'un peu, ça me fait un peu penser au Cognac Bowl où aussi il t'oblige à prendre une star et du coup c'est un duel de stars sur le terrain.
Chaque fois tu prends ta jante, t'es obligé de boire et à la fin du tournoi t'es mort.
Non, c'est
le
Cognac Bowl, c'est les stars qui font tous les points de l'équipe en fait. Et si ta star elle sort du terrain, et ben en fait tu perds tous tes points bonus. Et si ta star agresse la star adverse et le sort du terrain, c'est là tu gagnes tout.
D'accord.
Donc c'est vrai, c'est des trucs marrants quoi.
Eh bien, merci messieurs pour cet exposé très clair et surtout très complet. Merci Bucks, merci Pedro, merci Bud Milka pour ta première participation et j'espère que ce ne sera pas la dernière. Et merci bien sûr SSB pour ton point de vue d'une pertinence rare sur le choix du goodies. On se donne tous rendez-vous pour le prochain numéro de Des Flashs et des Crânes, ce sera le numéro 7. D'ici là, portez-vous bien et surtout, on se donne rendez-vous à tous ceux qui participeront à la World Cup. D'ici là, des gros bisous.
Ouais, moi j'ai juste reprendre un tout petit peu la parole à la fin pour remercier Doc Groznik. Si cet épisode existe aujourd'hui et si on est autour de la table, c'est en très grande partie grâce à lui. Il y a 99,9%, c'est lui qui nous a un petit peu poussé et incité à reprendre le micro alors que c'était un peu compliqué.
Tout seul j'aurais pas eu grand chose à dire.
C'était un petit peu compliqué et c'est lui qui a préparé en amont l'épisode, donc voilà, un grand merci, un grand bravo à Doug Groznik, à Damien pour son boulot. Et ben voilà,
et puis c'est pas fini, faut que je monte tout ça derrière.
En plus c'est lui qui bosse après quoi. Quelle dédication à la communauté.
Allez, gros bisous
merci
à tous.
Gros
bisous Team France Football.
Et bonnes vacances en Italie.
À 3 semaines à la World Cup.
À bientôt.
Sur les pilous.
Ah oui, alors.
Là, c'est beaucoup trop. Faut arrêter dans tous les sens maintenant.